18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Une femme qui décède après 5 appels de sa famille au SAMU, ses derniers portent plainte, ça s'est bien passé en France et même près de Belfort. La colère et les questions sont vives, le point complet dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
C'est dans un instant. Les artistes qui se mobilisent une nouvelle fois pour l'écologie, vous les connaissez tous en fait, Zazie, Bruno Solo, Laure Manaudou par exemple, dans une tribune au Monde, ils s'engagent à pratiquer et diffuser des gestes permettant de réduire notre impact sur la planète. L'un des signataires est mon invité ce soir à 18h20, Charles Berling, l'acteur, entre autres, nous dira ce qu'il fait, lui, concrètement. Et puis Christophe Castaner qui enjoint les préfets à combattre l'islamisme et le communautarisme, on en débat dès 18h30, dans les grandes voies. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est l'info qu'il vous faut, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je remets en cause, si vous voulez, les moyens inadaptés par le SAMU pour essayer de sauver ma maman.
Le SAMU à nouveau sur la sellette. Comment une femme a-t-elle pu mourir d'un infarctus après 5 appels passés au 15 et une heure d'attente interminable? Sa fille porte plainte, enquête ouverte pour homicide involontaire.
Et le patron de SAMU Urgence de France, justement François Braun, vient répondre ce soir sur Europe 1. Nous lui passons le coup de fil du 18h.
Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron prêt à réexaminer l'intervention militaire française au Sahel après la mort de 13 soldats français. Il en appelle à l'aide des alliés pour combattre le terrorisme.
Et c'est une exclusivité Europe 1. Le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a accordé, attention, son unique entretien à Europe 1. Il répond ce soir au président français.
La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN.
Voilà une réponse du tac au tac, vous l'entendrez dans son intégralité, cet entretien exclusif alors qu'Emmanuel Macron assume ses propos, lui, sur l'OTAN qui, il la disait, en état de mort cérébrale. Dans ce journal également, la colère sociale qui monte à l'approche du 5 décembre, les transporteurs routiers ce matin et ce soir les entrepreneurs du BTP qui comptent bloquer des dépôts pétroliers.
Et puis le cardinal Barbarin à nouveau devant le tribunal, procès en appel pour ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles dans son diocèse.
Si c'est une sanction d'être formateur des catéchèses pour un pédocriminel, je ne comprends pas bien où est ni la justice ni la morale.
Et les victimes témoignent de nouveau à la barre. Enfin, la star Zlatan chute de son piédestal en son pays, victime de vandalisme et même de menaces de mort dans sa ville de Malmö. Tout ça pour une affaire de foot, on vous racontera. La Bourse de Paris en léger repli à 5 912 points.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Quelques perturbations encore demain sur le pays avec des précipitations. Mais surtout le retour des éclaircies, tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le drame date du mois de septembre, mais nous l'apprenons aujourd'hui et il relance le débat sur les failles de la régulation du SAMU. Une femme de 62 ans est morte d'un infarctus dans le territoire de Belfort. Ses proches ont pourtant composé le 15 à 5 reprises. Le SAMU a mis une heure à arriver, trop tard pour la sauver. Justin Morin, sa fille, a porté plainte. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire.
Oui, effectivement. Sa fille Anne-Sophie Forny-Greffier sait qu'elle n'est pas objective, mais elle ne peut pas s'empêcher de croire que sa mère serait toujours en vie si elle avait été mieux prise en charge. Tout s'est passé en à peine une heure. Après un déjeuner de famille, Anne-Sophie, la fille de la victime, est inquiète. Sa mère, atteinte d'hypertension, ne se sent pas bien. Sa fille se montre très prudente et appelle le 15. Écoutez bien cet extrait que s'est procuré BFM.
Le SAMU ? Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai ma maman qui se sent pas bien. Elle a mal dans le bras gauche. Elle a mal au ventre et à la tête aussi. Elle est toute blanche.
Oui, elle vient de vomir, ça c'est pour ça. Eh ben, écoutez, on va la voir hein, puisqu'elle se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment.
Une ambulance est envoyée, mais rapidement, l'état de la sexagénaire se dégrade. Anne-Sophie rappelle une fois, deux fois, alarme le médecin régulateur qui lui répond qu'une ambulance est en route. Sa mère arrête de respirer, sa famille entame alors un massage cardiaque. Les ambulanciers prennent le relais, le mari de la victime appelle à son tour le SAMU, il est un peu plus de 4 heures, et leur dit clairement, si elle décède, ce sera de votre faute. L'équipe d'urgence, elle, n'arrivera finalement qu'à 16h17, soit près d'une heure après le premier appel. Edith Greffier décédera à l'hôpital d'un infarctus. Dès le début, pourtant, Anne-Sophie Forny pensait avoir été très claire.
On ne remet pas en cause, si vous voulez, le respect de la procédure, mais le défaut de diagnostic. Au vu des éléments précis et clairs que je leur ai donnés, je remets en cause, si vous voulez, les moyens inadaptés par le SAMU pour essayer de sauver ma maman. Je crois que c'est un problème qui va devenir assez récurrent par rapport aux problèmes que rencontrent les hôpitaux, etc. actuellement.
Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, responsable du 15, a répondu avoir suivi la procédure et qu'une enquête interne était en cours.
Le récit de Justin Morin, merci.
Et nous passons le coup de fil du 18h au président de SAMU Urgences de France. Bonsoir François Bourone.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le SAMI a mis plus d'une heure après le premier appel à arriver? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Bon, je crois que ce qui est déjà très important, c'est qu'une enquête soit diligentée, puisqu'il y a des réponses à apporter, il y a des réponses à cette famille qui légitimement s'interroge sur ce qui s'est passé. Lorsqu'on prend les événements, le premier appel, le médecin n'a pas évalué qu'il y avait des éléments de gravité, et l'expertise dira s'il avait raison ou pas. Il a engagé immédiatement une ambulance, et lors de l'appel suivant, où on lui a fait part de la perte de conscience et de toute évidence un arrêt cardiaque, il a immédiatement engagé une équipe SMUR, c'est-à-dire une équipe de réanimation, mais qui malheureusement est loin, puisque l'hôpital est loin, comme encore beaucoup trop de nos concitoyens qui sont trop loin de nos bases de services mobiles d'urgence et de réanimation.
Et la fille de cette dame qu'on a entendue à l'instant dit que les pompiers sont à quelques minutes de chez elle. Pourquoi on n'envoie pas les pompiers à ce moment-là ?
Probablement, ça ne change rien, puisqu'au moment où il y a eu l'arrêt cardiaque, les ambulanciers étaient à la porte et sont arrivés tout de suite. Après, la sollicitation des uns et des autres dépend des capacités des uns et des autres à répondre. Lorsqu'on entend les pompiers, vous savez que comme les urgentistes, ils sont en grève pour dire qu'ils manquent de moyens, qu'on les sollicite trop de la part du SAMU. On voit bien qu'il faut réorganiser en France correctement les choses, avec d'un côté le secours, de l'autre côté la santé, et c'est ce que nous mettons en avant avec l'existence de deux numéros et de deux plateformes.
Donc vous dites que ça n'aurait rien changé s'ils étaient arrivés plus tôt?
Je ne sais pas. Je pense qu'il faut enquêter globalement, savoir quels étaient les délais, savoir quels étaient les signes. Mais les sapeurs-pompiers sont des secouristes qui ne vont pas intervenir, ne pas faire de gestes thérapeutiques sur une suspicion de diagnostic. Ils vont pouvoir, par contre, être immédiatement là au moment de l'arrêt cardiaque. Et très difficile de dire si ça aurait changé quelque chose ou pas. Tout l'intérêt de cette enquête qui doit apporter des réponses aux interrogations très légitimes de cette famille.
Merci docteur François Bourone d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1, président de SAMU Urgences de France.
Faut-il réexaminer l'intervention française au Mali? Le débat est lancé depuis la mort des 13 militaires en début de semaine. Aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir les modalités d'intervention. Toutes les options sont ouvertes, dit-il. Il réclame surtout que les alliés de la France contribuent eux aussi à la lutte contre le terrorisme. Écoutez.
Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel le conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique.
Emmanuel Macron qui s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg.
Et justement, le patron de l'Alliance Atlantique répond au président de la République en exclusivité pour Europe 1. Il a accordé sa seule interview en France. Entretien enregistré avec Sonia Mabrouk.
Et vous allez entendre sa réponse du tac au tac, alors même qu'on le sait, Emmanuel Macron a assumé ses propos sur l'OTAN, qu'il dit en état de mort cérébrale.
La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN. L'OTAN peut fournir un soutien, une formation, donc nous avons la capacité d'en faire plus, mais nous ne le ferons que s'il y a une demande de la France. Si la France demande de l'aide de l'OTAN, je suis certain que les alliés de l'OTAN vont le prendre très au sérieux parce que l'OTAN voit l'importance de lutter contre le terrorisme également au Sahel.
Voilà, la France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN. Voilà donc la réponse du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg. Interview exclusive Europe 1 que vous retrouvez dans son intégralité demain matin à 8h15 avec Sonia Mabrouk et Mathieu Béliard.
Il est 18h08 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Nous en venons au procès Barbarin ce soir. Le cardinal à nouveau devant la justice.
L'archevêque de Lyon est jugé en appel pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises dans son diocèse par le père Prénat. Au mois de mars, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Jean-Luc Bougeon, sa ligne de défense n'a pas bougé. Il dit ne pas voir en quoi il est coupable.
Non, effectivement, le cardinal ne voit pas comment il aurait pu en faire plus pour aider les victimes, sachant que, dit-il, les faits étaient la plupart du temps prescrits. Alors il revient sur deux moments, mars 2010, entretien avec le père Prénat, qui lui avoue les faits. Sans rentrer dans les détails, le cardinal lui demande simplement si cela s'est reproduit depuis 91. Non, non, trois fois non, jure le prêtre la main sur le cœur. Philippe Barbarin le croit sur parole et le sanctionne d'un simple déplacement dans une autre paroisse. Deuxième moment, novembre 2014, Alexandre Aizé, victime du père Prénat quand il avait 10 ans, vient le voir et lui raconte tout. Le cardinal affirme aujourd'hui qu'il prend vraiment conscience des choses à ce moment-là. Il écrit notamment à Rome pour savoir la conduite à tenir. Et à la barre, il affirme tout à l'heure « J'ai aussi demandé à Alexandre de tout faire pour trouver d'autres victimes non prescrites pour qu'une action en justice puisse être lancée. Tout ça est faux », lui a répondu à la barre Alexandre Aizé.
Ça ne s'est absolument jamais passé comme il l'a traduit. Lui dit que finalement, il a quasiment été leader dans toute cette histoire, et notamment au niveau du père Prénat, alors que rien ne se passait.
Lui dit, il vous a incité à trouver d'autres victimes qui n'étaient pas prescrites. Et vous dites, ça ne s'est pas passé comme ça.
Je dis plus, je dis que c'est faux.
Il ment.
Oui, il ment, complètement. Ça ne s'est jamais passé, et d'ailleurs après, la décision qu'il avait prise du père Prénat de notamment le mettre dans une nouvelle fonction qui était formateur des catéchèses, pour moi, si c'est une sanction d'être formateur des catéchèses pour un pédocriminel, je ne comprends pas bien où est ni la justice ni la morale.
Voilà, l'archevêque en tout cas très volubile depuis ce matin. Comme il est plutôt ménagé par le président, eh bien il prend le temps de s'attarder sur des dates, sur des détails sans importance. Le tout a duré à peu près 3 heures. Un contraste saisissant avec les victimes, parties civiles, qui elles n'ont parlé qu'à peine une petite heure alors qu'elles étaient 9 à attendre leur tour.
Jean-Luc Bougeon en ligne de la Cour d'appel de Lyon pour Europe 1.
Et on va y revenir longuement avec nos grandes voix, hein, dès 18h30. On va y revenir parce qu'il y a eu de nouveaux témoignages aussi à la veille de cette audience. On y reviendra donc avec aussi ce que nous a livré là à l'instant Jean-Luc Bougeon.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Après les transporteurs routiers, ce matin, le secteur du bâtiment se mobilise à son tour contre la hausse du diesel. Blocage à venir des dépôts pétroliers. On est en Bretagne dans la suite de votre édition de 18h.
Et puis la superstar du foot, Zlatan Ibrahimovic, porte plainte après des menaces de mort. Sa statue a été vandalisée aussi. On vous raconte pourquoi ses fans lui en veulent à ce point.
Votre grand journal du soir, toute l'info qu'il vous faut sur Europe 1, c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite du journal sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est une taxe potentiellement explosive. Elle frappe le gazole acheté par les professionnels et son augmentation fait monter la colère chez les entrepreneurs.
2 centimes de plus, mais qui ont un impact sur la rentabilité de ces entreprises. Il y a les transporteurs routiers qui ont mené des blocages, des barrages filtrants ce matin dans le nord près de la frontière belge. Et maintenant, les artisans des travaux publics, opération Escargot sur le périphérique de Nantes aujourd'hui. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Ronan Coquelin, vous êtes sur place. Il prévoit de bloquer ce soir plusieurs dépôts pétroliers.
Oui, cela concerne pour le moment les dépôts pétroliers situés en Bretagne. La raffinerie de Donge en Loire-Atlantique pourrait aussi être visée. Au grand mot, les grands remèdes, bloquer les dépôts, c'est le meilleur moyen pour se faire entendre, selon Vincent, patron d'une entreprise de travaux publics dans le Morbihan.
On va bloquer Lorient et on va aussi aller sur Rennes et le Finistère, donc à Brest. Si on ne marque pas le coup tout de suite, les députés ne comprennent rien. On a rencontré des députés, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire GNR. Alors qu'ils ont voté la loi, on est tout seul aujourd'hui. Mais on est capable de faire du grabuge.
Car les enjeux sont pour eux très importants. Dès ce midi, une centaine d'entre eux se sont rassemblés à Nantes devant la préfecture. Supprimer les avantages fiscaux sur le gazole non routier reviendrait à signer la mort de leurs entreprises. Pascal est entrepreneur dans le sud Vendée. Il redoute des dépenses astronomiques.
C'est même pas une petite mort, là, c'est la mort totale. Là, on est face à un mur. On ne peut pas s'adapter, c'est impossible.
Ces artisans des travaux publics ne céderont pas sans obtenir gain de cause, quitte à bloquer les dépôts pétroliers pendant plusieurs jours.
Ronan Coquelin en ligne de Nantes pour Europe 1. La grève du 5 décembre n'a pas encore commencé, que déjà 150 000 voyageurs sont impactés. La SNCF les a prévenus aujourd'hui que leur train serait supprimé entre le 5 et le 8 décembre. Cela laisse du temps aux clients de s'organiser, précise la compagnie.
L'exécutif promettait quoi ? Eh bien des mesures pour lutter plus efficacement contre le communautarisme et l'islamisme. En voilà, ça y est, depuis aujourd'hui, un premier volet.
Tous les préfets de France étaient convoqués au ministère de l'Intérieur. Nouvelle consigne, ils devront faire de ce combat leur mission prioritaire. Adrien Beck, le ministre, a signé une circulaire.
Oui, il ne s'agit pas, vous l'avez compris, d'une nouvelle loi, mais le gouvernement montre qu'il occupe le terrain dans la lutte contre le communautarisme. Christophe Castaner a donc invité les préfets à utiliser les moyens administratifs existants.
Les atteintes à la République doivent être identifiées, Elles doivent être sanctionnées. Je vous demande la plus grande vigilance, la plus grande fermeté. Notre arsenal législatif et réglementaire est prêt. Il est à votre disposition. Et je vous demande d'en utiliser tous les ressorts.
Et parmi ces ressorts, des contrôles d'hygiène, de la lutte contre la fraude, par exemple dans les bars présentés comme islamistes, des contrôles dans les écoles pour vérifier qu'elles enseignent bien le socle éducatif minimal. Ce type de contrôle de procédure existe déjà depuis 2 ans dans une quinzaine de villes de France. Enfin, le gouvernement veut aussi associer les maires. Ils sont invités à capter les signaux faibles d'une possible dérive communautaire sur le territoire de leur commune.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
En Suède maintenant, la star du foot Zlatan Ibrahimovic a été menacé de mort. Et oui, bien lui, il a porté plainte.
La statue à son effigie dans sa ville natale, à Malmö, a même été dégradée. Et le point de départ est une histoire de foot. Zlatan a osé investir dans le club concurrent de sa ville d'origine. Il a investi à Stockholm, ce qui a mis très en colère ses fans, au point que la tension monte à ce point. Cyril de la Morinerie, menace, vandalisme jusque chez lui.
Exactement, on a retrouvé la statue en bronze coiffée d'un sac poubelle bleu, une lunette de toilette autour du bras et aspergée de peinture blanche. Cette statue qui a été inaugurée il y a quelques semaines seulement. Et pire, près du monument, les mots « Tzigane » et « Meurs » ont été inscrits en lettres blanches. Des insultes qui visent notamment les origines de Zlatan, son père est bosnien et sa mère croate. Une pétition demande par ailleurs que la statue du footballeur soit déboulonnée. Elle a recueilli plus de 7000 signatures. Quant au logement de l'ancien joueur du PSG, le mot « Judas » a été inscrit sur la porte et du hareng fermenté à l'odeur nauséabonde jeté sur l'immeuble. Évidemment, tout cela est allé beaucoup trop loin. Une enquête a été ouverte pour vandalisme et menaces à caractère raciste, indique ce soir la police de Malmö. Zlatan, indépendamment de cette affaire, a indiqué qu'il ne rejouerait plus jamais dans le championnat suédois. À 38 ans, son avenir, s'il en a encore en tant que footballeur, s'inscrit loin de Malmö.
Voilà, le vandalisme a renfumé.
Les fans, quand ils se fâchent, ils ne le font pas à moitié.
N'importe quoi.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Saint-Etienne, ce soir, sur le terrain.
Saint-Etienne qui reçoit les Belges de la Gontoise, c'est la Ligue Europa. On suivra ça dans le journal de 19h. Coup d'envoi 18h55 précisément.
Merci Sébastien Krebs, à tout à l'heure. Dans un quart d'heure, l'info avec vous.
C'est bientôt l'hiver et en hiver comme en été, les pneus 4 saisons Hankook vous assurent une tenue de route parfaite. Hankook vous présente la météo.
Anissa, encore des perturbations demain vendredi.
Oui, alors quelques-unes sur un ciel couvert, sur une grande partie du pays, de la Normandie à la région parisienne, sur le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais. Les pluies seront assez soutenues le matin et sur les Alpes, on attend même des chutes de neige au-dessus de 1200 mètres. De la Bretagne au Limousin, les pluies seront un peu plus faibles au fil des heures. Et la bonne nouvelle, c'est pour vous qui nous écoutez, de la côte atlantique jusqu'au Pays de la Loire et même jusqu'au Pays Basque, et bien là, vous aurez une journée au sec, sous un beau soleil. Sur le pourtour méditerranéen également, vous êtes chanceux. Et en Corse, après la dissipation des nuages matinaux, l'après-midi sera ensoleillé. La tramontane souffle, attention, dans le sud, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont un peu plus fraîches demain matin. 1 degré à Charleville-Mézières, 7 à Paris et 11 à Nice. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Zazie, Bruno Solo, Laure Manaudou et j'en passe dans une tribune. Dans le journal Le Monde, des artistes se mobilisent une nouvelle fois pour l'écologie. Ils s'engagent à changer leurs pratiques personnelles et professionnelles. L'un des signataires, Charles Berling, acteur et metteur en scène, est mon invité dans moins de 2 minutes.
Restez avec nous, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Les artistes sont mobilisés une nouvelle fois pour la planète. Zazie, Bruno Solo, Thomas Dutronc, dans une tribune au Monde, ils s'engagent pour l'écologie. Nathalie Lévy, vous recevez l'acteur et metteur en scène Charles Berling, il est votre invité.
Bonsoir Charles Berling, merci beaucoup d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. Cette tribune dans le Monde, qu'est-ce que vous voulez dire avec? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aujourd'hui?
Cette tribune dans le Monde est là pour faire dire que tout citoyen, quel qu'il soit, à sa place, aussi modeste qu'elle soit, peut agir. Moi, je suis d'une génération qui a longtemps un petit peu attendu avant d'agir. J'ai mangé beaucoup de viande en pensant qu'il fallait absolument manger de la viande tous les jours, à tous les repas, machin. J'ai été dispendieux, j'ai consommé parce qu'on nous a offert des choses absolument à la fois magnifiques, mais en même temps, comme on le voit aujourd'hui, qui peuvent être mortelles pour nous. Donc je veux apprendre à mieux organiser les choses, je veux apprendre à mieux consommer, c'est-à-dire à ne pas être dans cette surconsommation qui finalement, en 40 ans, nous a été un peu imposée.
Vous dites dans cette tribune avec ce collectif d'artistes, Zazie, Calogero, Chaka Ponk, Laure Manaudou pour ne pas les citer, que c'est un engagement personnel et professionnel. Ça veut dire quoi concrètement dans votre quotidien, sur les tournées, comment ça va se traduire ?
Alors, c'est, par exemple, moi, je dirige deux théâtres là, dans le sud de la France qui s'appellent Château-Vallon-Liberté. Bon, ben, ça fait depuis 2 ans qu'on donne des gourdes aux acteurs et aux actrices qui passent. C'est-à-dire qu'on fait attention à donner de la nourriture qui est des circuits courts, c'est-à-dire qu'on se pose la question de... Parce que je pense qu'on est dans des institutions, si vous voulez, qui parlent de ça, qui amènent des penseurs, des artistes, des plasticiens, un certain nombre de gens qui sont quand même conscients de ce qui se passe. Donc je pense que dans la pratique quotidienne, dans ces deux théâtres, on s'y est mis depuis 2 ans. C'est très, très important. Aujourd'hui encore, on avait une réunion avec le cuisinier en lui disant
ça veut
oui,
dire...
bien sûr.
Ouais. Ça veut dire, attendez, Charles Berling, vous parlez de Toulon. Je sais que vous êtes directeur du Théâtre Liberté à Toulon, mais vous habitez aussi Paris. Est-ce que, par exemple, vous renoncez, vous vous engagez à cesser de prendre l'avion pour faire ces allers-retours Paris-Toulon, par exemple ?
Je prends toujours le train pour aller à Toulon. Ça fait 4 heures et c'est d'abord, si on réfléchit, c'est l'avion c'est 5 heures, le train c'est 4 heures et demie si on va de chez soi à machin, parce que le train va plus au centre-ville. À Paris, je circule en vélo depuis 2 ans maintenant. J'en suis absolument ravi. J'ai laissé la moto, j'ai laissé la voiture. Ça sert à rien pour moi. Dans Paris, je pense qu'il faut prendre des vélos et je prends mon vélo. Quand vraiment je ne peux pas prendre des vélos, je prends les transports publics ou les taxis.
En quoi, Charles Berling, n'est-ce pas une déclaration de plus finalement pour le climat ou la sauvegarde de la biodiversité ? Est-ce que vous croyez vraiment que les gens y apportent encore de l'importance, surtout quand c'est les artistes qui se mouillent, si j'ose dire, les artistes dont on sait aussi évidemment quel est votre confort, les voyages, les tournées, etc.
Je comprends ça, bien sûr, on va toujours dire « Ah, c'est les bobos, regardez, Berling, évidemment, c'est trop facile pour lui », mais je dis juste cette chose-là, c'est-à-dire qu'on est dans un tournant de l'humanité, c'est-à-dire c'est pas rien. Moi, je fais du bateau, je vois la Méditerranée, comment en 40 ans, elle a évolué. Donc, je le vois. Donc, moi, je dis, qui qu'on soit dans ce monde, plus on en aura conscience, et pour sortir de cet état de sidération, parce que je pense qu'il y a un état de sidération de la part de beaucoup de gens qui se disent, je le vois, je pense que c'est vrai, mais je ne le crois pas.
Alors, donc concrètement, il y a 42 gestes, il y a 42 gestes dans cette liste qui permettent de réduire notre impact sur la planète. Ça va des bouteilles d'eau remplacées par les gourdes, du covoiturage. Vous procédez comme ça, par exemple, quoi d'autre ? Les bus hybrides, c'est possible ça pour Charles Berling, par exemple ?
Personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Il ne faut pas commencer à être des ayatollahs de l'écologie. Je dis, faisons tous ce qu'on peut à notre niveau en changeant un peu nos habitudes. Je sais bien que pour l'être humain, c'est difficile de changer ses habitudes. Mais il faut y tendre. Moi, je ne suis pas parfait non plus. Je ne dis pas que je ne mange jamais de viande. Je dis que je peux en manger beaucoup moins. Je le fais, je le constate et je me dis est-ce que je suis plus malheureux ? Pas du tout.
Beaucoup dans les gens qui nous écoutent n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, de consommer de telle ou telle façon pour des raisons de budget. Des produits suremballés qui sont souvent hard discount, ils ne vont pas du tout vers les produits bio parce que c'est trop cher. C'est pas un peu facile de faire la leçon à ces gens-là ?
Moi, je ne fais pas la leçon à personne et je comprends très bien ce que vous dites, comme quand les Gilets jaunes disent « la fin du monde, moi, c'est la fin du mois ». Je comprends ça. Je dis que plus on sera nombreux à dire que cette solution est possible et plus les pouvoirs publics, plus les industriels vont comprendre qu'ils peuvent aussi eux-mêmes changer leur mode de production. Parce que ça, c'est que même quelqu'un qui est dans la précarité, il peut comprendre qu'il peut essayer aussi de rechercher un choix qui n'est pas forcément plus cher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, et je trouverais ça dommage, que parce qu'on est pauvre, on ne réfléchit pas. Parce que ça, c'est aussi tenir un discours en disant « oui, alors les gens qui sont dans la précarité, comme ils sont pauvres, ils sont idiots ». Non, ils n'ont pas forcément... Vous avez raison, mais ça veut dire qu'il faut...
Non, mais il y a aussi, vous savez, il y a ceux aussi qui vous disent que c'est une question d'image, de notoriété, par exemple, qui disent « il vaudrait mieux pour eux, pour ces artistes, à agir concrètement, quitte à rester dans l'ombre. Pourquoi une tribune ? Pourquoi de grands discours ou de grandes tribunes ?» Ça aussi, ça fait tiquer.
Moi, je constate, parce que je vis comme vous dans la société tous les jours, je vais en ville, je croise des gens, je vais au restaurant, je fais mes courses et tout. Bon, et je constate qu'il y a un effort à faire sur la communication et sur le fait qu'il faut briser cet état de sidération. Il faut briser l'état de sidération qui consiste à dire « je ne peux rien faire, de toute façon, puis moi je suis trop pauvre ». Non, il faut dire aux gens « si vous pouvez ». si c'est possible. Et moi, je le pense.
Et on
maintenant,
peut...
c'est pour ça que plus on fera de la, on communiquera là-dessus, plus je pourrai, comme vous me permettez là à l'instant, m'exprimer là-dessus, plus je pourrai essayer de convaincre.
Convaincre avec des gestes, donc avec cet engagement professionnel et personnel que vous prenez, vous, Charles Berling, avec donc ces autres artistes que j'ai cités dans cette liste, donc et cette tribune publiée dans Le Monde, 42 gestes et on l'a dit, plus de bouteilles d'eau en plastique, du covoiturage, des bus hybrides, entre autres, hein, plus consommer de viande, etc. Et vous nous l'avez dit, vous ne prenez plus l'avion pour faire ces allers-retours, notamment à Toulon. Quand il s'agit d'aller plus loin, c'est l'avion, toujours ?
Oui, c'est-à-dire, bien sûr, je ne suis pas, qu'est-ce que vous voulez, il y a des moments, je ne peux pas. Je dois aller en Afrique, là-bas, je vais prendre un avion, mais je le fais le moins possible. J'essaie même de réfléchir, je me dis, est-ce que je ne peux pas essayer de trouver un bateau qui, plus on va faire pression pour que la société se réorganise autrement, plus il y aura des solutions. Si vous
merci beaucoup, après, Charles Berling, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes ce soir depuis le sud-est de la France. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Dans une seconde, Sébastien Krebs, les grandes voix, c'est juste après, soyez au rendez-vous.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix, ça se passe au 39-21, n'hésitez pas, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le SAMU a nouveau mis en cause. Une femme est morte au mois de septembre d'un infarctus après avoir attendu une heure les secours. Ses proches ont composé le 15 cinq fois. Sa fille porte plainte. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Blocage en vue dans plusieurs dépôts pétroliers en Bretagne. Action ce soir des entrepreneurs du secteur des travaux publics pour protester contre la hausse d'une taxe qui frappe le gazole à usage des professionnels. La tension monte autour du 5 décembre. La SNCF a déjà prévenu 150 000 voyageurs que leur train serait annulé entre le 5 et le 8 décembre. À Paris, la RATP dit aussi s'attendre à un trafic fortement perturbé. Et puis un geste annoncé pour les étudiants précaires, les loyers des résidences universitaires seront gelés en 2020. Cela concerne 175 000 logements gérés par les Crous.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous dans 30 minutes, un peu moins. Anissa, du côté du temps, ça se passe comment ?
Une bonne nouvelle, le retour du soleil, en tout cas un petit peu plus d'éclaircies demain. Pour le nord, la Normandie, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, après les nuages gris du matin, le soleil fera donc de belles apparitions dans l'après-midi. Vous aussi, sur la côte atlantique, sur les Pays de la Loire, jusque sur le Pays Basque, vous allez profiter quand même d'un après-midi très ensoleillé. C'est au bord de la Méditerranée que le soleil sera le plus généreux dans l'après-midi. Alors, attention, j'ai quand même des nouvelles un peu plus mitigées de l'Alsace aux Alpes. Là, les pluies seront assez soutenues sur le Cotentin, le Nivernais, le Massif Central et le Limousin. Quelques averses sont aussi possibles dans l'après-midi. Les températures, elles commencent à baisser et je vous ai annoncé une chute assez nette des températures. Ça sera pour ce week-end. Demain, il fera 7 à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Rennes, Belfort et Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, c'est avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h.
Oui, ils sont installés dans ce studio. Laetitia Krupa, Isabelle de Golemin, Mickaël Darmon, je vous les présente et les sujets qui vont avec dans une seconde.
Vous pouvez réagir sur Twitter et nous suivre bien sûr avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix, comme chaque jour, jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, Laetitia Krupa, spécialiste de communication, et Isabelle de Golemin, rédactrice en chef à La Croix.
Et vous avez signé aussi Histoire d'un silence en 2016 aux éditions du Seuil, hein, Isabelle de Golemin. Vous avez vu, vous, Barbarin, le cardinal, vous l'avez vu notamment en 2005, vous allez nous raconter dans un instant parce que c'est avec ça que j'aimerais qu'on commence. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Bonsoir.
Évidemment, le procès Barbarin, le cardinal à nouveau devant la justice aujourd'hui. L'archevêque de Lyon jugé en appel pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises dans son diocèse par le père Prénat. En mars, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Sa ligne de défense aujourd'hui, et Jean-Luc Bougeon nous l'a dit, hein, sur place, sa ligne de défense n'a pas bougé. Il dit ne pas voir en quoi il est coupable. Évidemment, je vous donne la parole, Isabelle de Golemin, parce que quand vous entendez ça ce soir, vous vous dites quoi ?
Bah,
que fait
l'Église ? C'est à la justice de voir si c'est une faute ou pas pénalement répréhensible. Moi, là où je suis en colère, d'abord, c'est que le père Prénat n'a toujours pas été jugé, donc ça, c'est quand même pas
ce
normal.
Ce sera janvier.
En janvier, mais on n'a pas arrêté de retarder son procès pour des raisons de procédure, et c'est lui et c'est l'Église qui a fait que ça s'est retardé.
Je vais juste rappeler l'ex-prêtre accusé d'agression sexuelle sur des enfants. Hein.
Voilà, que de fait, moi j'ai bien connu, puisque j'étais scout dans sa troupe. Et que ensuite, là où je suis aussi en colère, c'est quand j'entends effectivement Mgr Barbarin dire on m'avait dit qu'il y avait des trucs. Non, on lui a dit qu'il y avait des trucs. Moi, quand je lui ai parlé en 2005, je lui ai parlé d'abus sexuels sur mineurs.
Vous lui avez parlé précisément de ces abus du père Prénat.
Oui, enfin, moi, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. Et effectivement, c'est ce dont je lui ai parlé.
Et comment il réagit à ce moment-là?
Bah, à ce moment-là, il réagit assez gravement. Il me dit « Ah oui, il faut voir, etc. » Et puis ensuite, quand il a témoigné à la police, il a dit « Quand Isabelle de Gomain m'en a parlé, je me suis dit « Oh là là, mais donc beaucoup de gens vont le savoir, donc il faut que je fasse attention. » Et il a commencé à bouger le père Prénat. Donc voilà, après, ce qui est sûr, et c'est là où la justice doit se prononcer, c'est que ce sont des choses qui sont prescrites. Et Dieu merci, a dit le cardinal. Et en fait, il ne s'est rien passé sous, on va dire, le mandat du cardinal Barbarin. De fait, c'est des choses qui se sont passées bien avant. Et lui, ce qu'il dit beaucoup, c'est qu'effectivement, il n'a jamais recommencé, donc il lui a fait confiance. Après, le problème, je crois que maintenant, on a changé d'époque. Ce n'est pas un cardinal, un évêque, un instituteur, un directeur d'école, etc., de juger ça. Quand on entend parler de ces choses-là, il faut de toute façon aller à la justice. C'est eux qui voient si c'est prescrit, c'est eux qui voient la dangerosité de la personne. Et ce n'est pas un homme...
Oui, c'est ça la défense du cardinal Barbarin, parce qu'il dit effectivement les faits étaient prescrits. Donc moi, je me suis retournée vers mon autorité à moi, celle de Rome. C'est ça aussi sa ligne de défense depuis le départ.
Oui, en fait, le problème, c'est que l'Église n'est pas seule. Et je crois que, honnêtement, l'Église de France a fait un gros effort, d'ailleurs, quelque part grâce à Mgr Barbarin, puisque depuis, du coup, avec tous ces scandales, ils ont bougé. Ils ont compris. Et par exemple, à Paris, l'archevêque de Paris a fait un accord avec la justice de Paris pour travailler ensemble. Je veux dire, l'Église, elle n'est pas seule dans sa bulle, quoi.
Mais ils ont bougé. Vous dites, ils ont bougé suffisamment? Enfin, ça paraît étonnant dans votre bouche.
Franchement, quand maintenant on parle d'indemniser les victimes, et quand il y a 5 ans, ils ne pouvaient même pas rencontrer de victimes, oui, ça a bougé. Après, ça a bougé trop tard, trop lentement, etc. Après, c'est vrai que Mgr Barbarin est un peu enferré dans son histoire, parce que lui, il estime, en plus, je pense, de bonne foi, qu'il n'a rien fait de mal, parce que c'était des choses anciennes. Et c'est ça le problème.
Un mot, Michaël Darmon, sur, évidemment, ce procès qui a déjà beaucoup ému et fait réagir aussi.
Oui, et je trouve que ce procès et cette affaire, d'une manière générale, permettent de constater à quel point la société française a changé. Elle a bougé dans son rapport aux institutions, dans son rapport à la capacité d'une institution de se masquer, de s'enfermer dans sa propre logique. Au fond, le débat qui existe est un débat très important pour l'Église et pour tous ceux qui ont été enfermés entre le déni de ce qui s'est passé, entre le déni de parler, le déni de ne pas parler, entre le rapport au pardon qui est quand même organisé quand même au cœur de l'Église et le rapport à la sanction. Et le mouvement est planétaire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en France, on l'a vu également dans d'autres pays. Et de ce point de vue-là, eh bien effectivement, ce sont peut-être des drames salutaires et qui peuvent justement permettre de faire avancer les institutions.
Il y avait eu ce scandale de pédophilie en Irlande, on s'en souvient, en 2010. On va prendre des auditeurs dans un instant sur ce sujet. Et puis, on va parler aussi de Christophe Castaner, combattre l'islamisme et le communautarisme. Il s'y attelle, il l'a dit au préfet.
Pour réagir en direct et interpeller les grandes voix, c'est simple, c'est le 39-21 que vous pouvez composer dès maintenant ou tweeter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix comme chaque jour jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Michaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique et Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix.
Avec ce procès Barbarin, le cardinal à nouveau devant la justice aujourd'hui et pour l'heure il campe sur ses positions. On est en appel, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis en première instance, c'était en mai. Bien sûr, on en parle ce soir, on parle aussi de cette communication. C'est vrai Laetitia Krupa, parce que vous êtes aussi spécialisée en la matière, communication politique essentiellement, mais là, la communication du cardinal Barbarin, ça a été aussi travaillé.
Ça a été travaillé parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence où il est poursuivi par 2-3 caméras et tout d'un coup il se retrouve un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture à devoir répondre acculé. Et cette séquence, elle a été vraiment mauvaise pour son image. À partir de là, le diocèse de Lyon est complètement croule sous les demandes des journalistes du monde entier. Donc il décide de faire appel à une agence de conseil, voilà, une agence spécialisée en communication. Et là, il lui est dédié un conseiller en communication qui va travailler avec lui tout le temps de l'enquête, notamment à Lourdes, où il a quand même ces mots malheureux. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Là, il avait un conseiller en com à ce moment-là. Là, maintenant, il n'en a plus. Ce sont ses avocats qui s'en occupent. aujourd'hui. On peut dire que quand même, dire je ne vois pas pourquoi et en quoi je suis coupable, c'est être complètement déconnecté de la réalité et de cette réalité que l'on vit aujourd'hui.
Alors on va prendre un auditeur rose mais qui nous appelle d'Angers. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous dites ce soir? Vous suivez évidemment ce procès?
Ben, je connais le problème qui a été soulevé il y a quelque temps de ça, et puis là j'apprends que il fait appel. Moi j'ai envie de dire qu'il y a deux domaines dans ce dossier. Il y a tout le domaine concernant l'histoire, c'est-à-dire à l'époque où les faits se sont produits, les liens de l'Église avec le peuple n'étaient pas le même, ainsi de suite. Enfin bref. Et puis il y a les faits. Les faits ont existé. Moi, aujourd'hui, quand vous venez de dire qu'il a pris un conseil pour l'aider à communiquer et tout, moi, j'ai envie de dire, c'est pas sur le niveau de la communication que cette question doit être traitée.
Mais allez-y.
Mais des journaux devraient mener des enquêtes pour vérifier, parce qu'on dit que lui, il a couvert quelqu'un.
Bah alors justement, c'est fait. Il y a eu plus que des journaux, Rosemée. Il y a eu des témoignages. Merci de votre appel depuis Angers. Il y a eu plus que des journaux, il y a eu des enquêtes, il y a eu des témoignages. Il y a encore des témoignages, là, ce soir, au procès, en face de lui, Isabelle de Golemin. Il y a des victimes, il y a des faits. Et vous l'avez dit tout à l'heure... Qui lui ont été rapportés. Hein.
On n'est pas dans une vue de l'esprit. Reprises, d'ailleurs, le Parisien sortait encore quelque chose là, cette semaine.
Hier.
Moi, je pense qu'il l'a su dès le début. Hein. Ça fait partie de la passation de pouvoir qu'il y avait un problème avec le père Prénat. Comme le dit votre auditrice, c'est aussi notre époque. Il faut jamais oublier ça. Hein. On ne voyait pas les choses de la même manière. Le problème, c'est qu'après, à partir des années 2000, il aurait dû réagir. Mmh. Et quand il voit Alexandre, il aurait dû réagir. Voilà, c'est au moins assez.
Mais c'est quand même intéressant ce qu'elle dit, Rosemée, parce qu'elle fait la différence effectivement entre l'époque, le rôle de la hiérarchie.
Mmh. Oui,
hein, il y a aussi cette vision-là.
Et pour illustrer aussi l'avancée de l'époque et rejoindre le débat sur la communication, il y a eu aussi deux actions en justice pour empêcher la sortie du film de François Ozon. Effectivement, le film titre, d'ailleurs, Grâce à Dieu. Qui raconte effectivement comment une famille essaye justement de lutter à la fois contre tout ce que les révélations provoquent et puis tenter de faire réagir l'Église. Finalement, le film est sorti, ce film est remarquable. Il a également fait prendre conscience aussi à l'ensemble de la société ce qui pouvait se passer à l'intérieur d'une institution et ce que cela pouvait provoquer sur des vies d'adultes également. Donc, de ce point de vue-là, la communication d'une part de l'Église, elle a aussi été parfois un peu maladroite puisque ça a contribué à éclairer encore plus la problématique.
Isabelle de Golemin.
D'ailleurs, il a reconnu ses maladresses. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que quand il voit arriver Alexandre, c'est le modèle, on le voit très bien dans le film, c'est le modèle du catho lyonnais, très classique, qui aime beaucoup Barbarin, etc. Et c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'il va préférer protéger le prêtre et l'institution plutôt qu'écouter la victime. Et ça, c'était le problème de l'Église. Moi, personnellement, quand j'ai écouté des victimes et qu'en plus, je pouvais très bien m'imaginer ce qui s'était passé parce que je l'avais vécu comme petite
bien
fille,
sûr,
je pense que ça change complètement le regard. Et c'est pour ça que l'Église a mis tellement de temps à changer, parce qu'elle a mis tellement de temps à accepter d'écouter des victimes. Barbarin, il a considéré la parole libérée comme des ennemis. Et d'ailleurs, son cabinet de communication n'a jamais voulu, pour des raisons juridiques, d'avocats, etc., qu'il les rencontre. Ce qui est idiot. Pour moi, c'est un non-sens.
En fait, c'est la logique d'ailleurs.
Quelle est la logique? Parce qu'on se demande.
C'est la logique de toute institution. Ce que vous venez de dire est très important. Toute institution, lorsqu'elle est incriminée, préfère mettre la prépondérance de son message et se protéger plutôt que d'écouter les victimes. On a vu d'autres
affaires.
C'est du déni. C'est du déni et c'est surtout la protection d'une institution qui est là pour se protéger en permanence et être plus importante que l'individu. Et ça,
c'est l'aveuglement aussi.
Voilà, en tout cas, on y reviendra. C'est fort intéressant de vous avoir sur ce sujet, Isabelle de Golemin. Je rappelle votre livre, Histoire d'un silence au seuil. Et donc, vous l'avez vu, vous lui avez parlé au cardinal Barbarin. On va enchaîner dans un instant. Christophe Castaner, une urgence absolue de lutter contre le communautarisme.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique et Isabelle de Golemin qui est rédactrice en chef au journal La Croix.
Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a demandé aujourd'hui au préfet de combattre l'islamisme et le communautarisme, qui sont, je cite, des atteintes graves au pacte républicain. Il en appelle au préfet, donc. Le ministre a signé une circulaire, Mickaël Darmon. C'est pas une nouvelle loi, soyons clairs.
Oui, c'est une circulaire qui est en préparation déjà depuis quelque temps. On va voir exactement dans quelle mesure elle aura une efficacité pour lutter, porter effectivement le combat de principe qui est posé dans la consigne du président de la République. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tout ça part d'un constat politique déjà dès avant l'été, de la part du président. On m'a raconté un déjeuner juste avant les vacances où tout le monde autour du président était un petit peu content de la sortie de l'acte 2, de la fin des gilets jaunes et tout. Et il aura un petit peu refroidi l'ambiance en disant, si vous croyez qu'on va être réélu sur ça, on va être réélu sur le régalien. Donc on a intérêt à se saisir de ces sujets. On était au mois de juin et en septembre, il déclenche l'opération.
Donc il faut occuper le terrain sur la lutte contre le communautarisme en particulier.
Enfin, en l'occurrence, ça existe. Il y a un plan de lutte contre la radicalisation qui a été lancé en février 2018. Donc ce n'est pas cette année. Il y a 15 quartiers qui ont été ciblés, dont Trappes dans les Yvelines, avec des fermetures d'écoles, des fermetures d'instituts, d'établissements culturels, de lieux de culte, même de débits de boissons. Voilà, donc il y a quand même des fermetures, ça existe. Et là, ils veulent élargir ce dispositif. Voilà, c'est l'objet de la circulaire.
Aux écoles, cette fois, les contrats d'hygiène, etc. C'est l'objet de cette circulaire, effectivement. La réponse du gouvernement, elle se veut aussi transversale. L'éducation nationale, les élus, tout le monde est associé. On décentralise aussi. Il faut aussi rappeler que c'est dans les territoires, les préfets, les maires sont appelés à...
D'ailleurs, Macron en a parlé devant les maires cette semaine. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on mette dans le même sac communautarisme et islamisme. Communautarisme, c'est vrai que c'est pas la tradition française, mais c'est pas de l'islamisme politique. L'islamisme politique, c'est quelque chose qui est dangereux. On veut mettre l'islam au-dessus de la République. Et là, il y a des lois, des moyens qui existent pour lutter. Et effectivement, là, on remet l'état de droit. Communautarisme, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il n'y a pas qu'un communautarisme musulman, il y a un communautarisme catholique, un communautarisme juif, il y a un communautarisme LGBT aussi, il y a plein de communautarismes. Donc, jusqu'où ça va le communautarisme? Comment est-ce qu'on conjugue un peu de communautarisme pour que les gens soient ancrés dans leur territoire, mais aussi qu'on fasse des citoyens français? Comment est-ce qu'on éduque, etc. Ça, de fait, ça se réfléchit, mais... Je trouve que moi, je suis un petit peu gênée sur le méli-mélo qu'on fait. Je pense que c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi dans un communautarisme, notamment parce qu'ils viennent de l'étranger, qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux, les Chinois, etc. C'est pas pour autant qu'ils sont radicalisés. Donc voilà, il faut faire attention.
Michel Darmon.
C'est vrai que Emmanuel Macron fait ce distinguo. Il a d'ailleurs fait récemment, lorsqu'il a donné l'interview, en disant lorsque vous me parlez de communautarisme, vous parlez d'islam, et moi je pense qu'il faut séparer les deux. Donc de ce point de vue-là, le procès ne peut pas lui être fait. En revanche, l'ambiguïté.
Oui, mais c'est ça, dans la pratique aujourd'hui.
Vous savez, il faut quand même se rappeler, et ça, c'est toujours intéressant en réalité. Moi je ne juge pas, mais c'est intéressant. Je suis très marqué par la manière dont le candidat Macron avait démarré son meeting à Marseille. Ouais. Souvenez-vous. Bonjour les Comoriens, bonjour les Arméniens, bonjour les Algériens, bonjour les Juifs, bonjour Marseille, bonjour les Musulmans, bonjour Marseille. Vous voyez, donc il avait lui-même déjà, et d'ailleurs il aime cette ville, il adore cette ville, et moi c'est pas à cause de l'OM, je pense qu'il aime cette ville parce qu'en réalité il y a une organisation de la communauté qui est en communauté de préférence et de référence, et quelque part la difficulté qu'il a à poser une vraie politique, c'est qu'il peut pas vraiment dire ce qu'il pense.
Bertrand nous appelle depuis Strasbourg, si vous voulez bien messieurs dames, bonsoir Bertrand.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue à vous Bertrand.
Merci.
Christophe Castaner qui enchaîne là pour combattre le communautarisme. C'est aujourd'hui, on passe à la pratique, on met les maires à contribution, les préfets. C'est la solution.
Eh bien, c'est très bien déjà. Simplement, il faut évoquer plusieurs points. D'abord, effectivement, vous l'avez précisé, c'est pas nouveau. Ça vient pas de tomber comme ça, brutalement. Mais après s'être rendu compte qu'il y avait des loups dans la bergerie, ils se rendent compte que les bergeries sont des tanières. Alors, ils veulent supprimer les tanières, c'est très bien. Le problème, c'est en justice, il faut que ça suive. Parce que si les décisions en justice ne condamnent pas, par exemple, des problèmes de mixité sociale, on n'aboutira à rien. Et puis, le fond du problème, c'est comme l'a dit Al-Sissi, le général Al-Sissi, qui dirige l'Égypte, c'est d'abord et avant tout de réformer le dogme de l'islam. Et ça, il en a parlé dès 2014 devant l'université Al-Azhar. Il a reparlé de ça à l'ONU dans son discours qu'il a fait en 2017. Je pense qu'il faut accompagner ce mouvement parce que ce n'est pas un problème qu'on pourra résoudre en France. C'est un problème qui tient à l'islam.
C'est l'islam qui doit être réformé de l'intérieur. Il y a un islam politique. C'est ce que vous nous dites, vous, ce soir au micro d'Europe 1.
Il n'existe qu'un seul islam, Nathalie. Je suis désolé de le redire et re-redire. Il n'y a qu'un seul islam. Et l'islam contient intrinsèquement, par le dogme en balisant un message clair, alors, politique.
Merci Bertrand de votre appel depuis Strasbourg. Un tour de table très rapide pour réagir à ce qu'il vient de nous dire.
Là, en l'occurrence, Christophe Castaner apporte une réponse tout de suite puisqu'il parle d'islamisme comme un projet politique antidémocratique, antirépublicain. L'islamisme qui est le pire ennemi de l'islam.
Oui, moi je crois qu'il y a des islams, c'est là où je ne suis pas d'accord avec notre auditeur, c'est-à-dire qu'il y a des manières de voir l'islam. On retrouve aussi dans la Bible, dans le christianisme, on trouve aussi des appels au pouvoir et des appels comme ça à ce que l'État devienne religieux. Je pense que le problème, c'est l'interprétation de ces textes-là, et c'est là où, de fait, et là je suis vraiment d'accord avec votre auditeur, il faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit fait sur l'interprétation du Coran, l'interprétation des sourates, et ça ne peut se faire que par les musulmans.
Mickaël, enfin.
Oui, cet enjeu d'évolution doctrinale qui permettrait de trouver une articulation sur les régimes, en particulier démocratiques, puisque le nôtre, c'est de celui-là qu'il s'agit, eh bien, il doit être trouvé par l'islam. Après, lorsqu'on parle de lutter contre le communautarisme, ça veut dire aussi que si on parle des futures listes municipales, qu'est-ce qu'on fait avec la liste des chasseurs, qu'est-ce qu'on fait avec la liste qui défend les animaux?
Oui, mais c'est les communautarismes qui portent atteinte grave à la République. Voilà comment on les définit. C'est simple à définir.
Donc, ça veut dire qu'il faut bien parler de l'islam politique. Et le distinguo, à ce moment-là, n'existe pas.
Voilà, urgence absolue. Mission prioritaire pour les préfets, a rappelé Christophe Castaner en s'adressant à eux aujourd'hui. Merci, les grandes voix, d'être venues ce soir. Laetitia Krupa, Isabelle de Golemin, Mickaël Darmon, merci à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le journal de Sébastien Krebs à la une, le Black Friday. Bah oui, c'est demain. Ils en pensent quoi, les consommateurs? Bah, on leur a posé la question.
Et vous pouvez réagir et nous le dire aussi au 39-21. N'hésitez pas, c'est votre grand journal du soir et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy.
Allez, je vous livre le programme, rien qu'à vous. 19h10, l'invité politique, le député porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallot. 19h20, demain en France, et puis demain dans le monde. 19h30, on est à la veille du Black Friday. Alors, ce vendredi noir pour la planète, vrai ou pas? Et vous êtes contre, oui ou non? Et puis, 19h45, une invitée exceptionnelle. Prix Goncourt 2016, Leïla Slimani, avec nous, pour une association, Lire pour en sortir, pour amener la lecture en prison. Et puis, vous le savez, son film, il vient de sortir au cinéma. Chanson douce qui fait trembler.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
J'ai attendu vraiment cette semaine pour faire des achats pour cadeaux de Noël et pour aussi les vêtements d'hiver.
Et vous, irez-vous profiter du Black Friday? C'est demain, polémique autour d'une forme de surconsommation encouragée, mais si c'était plutôt des achats anticipés, on verra ce que vous en pensez.
L'actualité ce soir, c'est aussi la journée noire du 5 décembre qui se prépare. Nous vous dévoilons dans quelques secondes avec Jean-Rémy Baudeau la stratégie du gouvernement pour tenter de limiter la galère, bah oui, dans les transports.
Le procès du Mediator et l'ancien numéro 2 des laboratoires Servier à la barre aujourd'hui. Attention, alerte sur le Maxilaz, le sirop pour la toux n'est pas un produit si anodin, il va passer derrière le comptoir des pharmacies. Enfin, le foot. Ce soir, Saint-Etienne accueille la Gantoise. Coup d'envoi vient d'être donné. Nous irons à Geoffroy Guichard.
La météo, la tendance en tout cas avec Vanessa.
Et le retour du soleil demain. Alors attention, on ne va pas prendre de coups de soleil, mais quand même quelques beaux rayons qui font plaisir dans les régions. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
D'abord, donc, nous vous dévoilons ce soir le plan de bataille du gouvernement face à ce qui est annoncé comme une journée noire. Le 5 décembre, c'est jeudi prochain. Il faut s'attendre à beaucoup de perturbations dans les transports. On sait déjà que la SNCF a prévenu 150 000 voyageurs que leur train serait annulé. Pour le reste, Jean-Rémy Baudeau, vous avez des informations ce soir sur la façon dont le gouvernement tente de limiter les difficultés.
Et en réalité, le premier conseil du gouvernement, c'est de limiter les déplacements et de favoriser le télétravail. Pour ceux qui devront malgré tout voyager, notamment en Île-de-France, le ministère des Transports reste prudent, ne se risque à aucune estimation de trafic. Seules les lignes des métros automatisées fonctionneront normalement à Paris, c'est la 1 et la 14. Grâce aux non-grévistes et à certains cadres, il y aura quand même des métros sur certaines lignes, mais ce sera juste aux heures de pointe. Même chose, quelques bus devraient aussi circuler dans la capitale et entre Paris et la banlieue. Mais tout ça, ce sera grâce à ces non-grévistes et à ces cadres. Le gouvernement promet par ailleurs de faire pression sur les taxis et les VTC pour limiter les surfacturations, car les prix sont déjà en train de s'envoler. Mais il est clair que la situation s'annonce particulièrement tendue pour les usagers. D'autant qu'en coulisses au gouvernement, on se prépare à ce que la mobilisation dure plusieurs jours. Pas de réquisition en vue. Mais le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari mobilise actuellement ses réseaux pour que certaines lignes en Île-de-France soient compensées par des bus privés.
Les informations ce soir de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. La tension sociale qui monte aussi sur la question de la taxation du car carburant. Les transporteurs routiers mobilisés contre la hausse de 2 centimes d'une taxe frappant le gazole à usage professionnel. Ils ont fait des blocages ce matin. Les entrepreneurs du BTP, eux aussi. Ce soir, ils prévoient de bloquer des dépôts pétroliers en Bretagne.
Ça, ce sont des promos qui dévisent, hein, littéralement. Vous avez peut-être prévu de vous précipiter dans les magasins demain ou de traquer la meilleure offre sur Internet. C'est, ça y est, le fameux Black Friday.
Et personne n'a pu y échapper à la radio sur les affiches dans vos boîtes mail. Ces offres sont partout et elles déclenchent une sorte de polémique qui dure depuis plusieurs jours maintenant. Faut-il interdire ce Black Friday, accusé d'encourager une forme de surconsommation ? Aujourd'hui, des militants écologistes ont bloqué les accès d'un entrepôt Amazon près de Paris et ils prévoient d'autres actions demain. Et vous, alors, les consommateurs, vous en pensez quoi ? Caroline Baudry, vous êtes allée poser la question aux clients d'un centre commercial parisien.
Là, tout près de chez nous. Hein.
Ouais, et visiblement, beaucoup comptent quand même profiter malgré toutes ces offres.
Hein. Oui, ici, impossible de louper le Black Friday. Beaucoup d'enseignes affichent déjà des prix au rabais. Alors Delphine, comme plus d'un Français sur trois, profite des promotions pour faire ses achats de Noël.
Par rapport à la liste de cadeaux de tout le monde, voilà. J'ai envie de voir un petit peu si je peux faire des affaires. Cette année, en tout cas, j'essaie vraiment de regarder les articles que j'avais intention d'acheter et si je peux les avoir remisés ou pas.
Des remises sur des cadeaux, mais aussi sur des articles du quotidien, comme de l'électroménager ou des vêtements. Pas d'achat compulsif pour tout le monde, donc Amadi, par exemple, a bien calculé son budget.
J'en ai besoin et j'ai attendu vraiment cette semaine pour faire des achats pour cadeaux de Noël et pour aussi les vêtements d'hiver.
Si les réductions ne sont pas toujours suffisantes, moins élevées que dans les pays anglo-saxons par exemple, les boutiques devraient tout de même attirer des milliers de consommateurs. D'après une étude, 6 milliards d'euros de dépenses sont attendues ce week-end en France.
Caroline Baudry dans un centre commercial parisien pour Europe 1.
Le procès fleuve du médiateur qui continue avec un moment important. Aujourd'hui, c'est l'ancien numéro 2 des laboratoires Servier qui a dû répondre à la barre.
Il est considéré comme l'ex-bras droit de Jacques Servier qui est décédé depuis et il est jugé notamment pour homicide involontaire pour avoir commercialisé ce médicament. Mediator, un antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim et qui est rendu responsable de centaines de morts. Marion Dubreuil, vous avez suivi l'audience et c'est très clair, ce numéro 2 refuse de porter le chapeau pour les absents.
Oui, le sexagénaire aux cheveux blancs et costume sombre minimise à la barre ses responsabilités. Numéro 2 des laboratoires Servier, d'accord, mais nous étions 6 numéro 2, précise Jean-Philippe Seta. Je n'étais même pas dans le cabinet du président, seul décisionnaire d'après lui. Ce médecin pneumologue est pourtant à la direction du groupe quand il y a la première alerte sur le Mediator en 1999. Il est évident que nous n'avons pas fait assez, reconnaît le prévenu. Nous n'avons pas assez rué dans les brancards, mais qu'est-ce qui empêchait de faire un suivi des patients en 2003 après le deuxième cas suspect, l'interroge la présidente. Il aurait fallu sortir du cadre. Être anarchiste, répond le médecin qui tacle au passage l'agence du médicament. Au même moment, Jean-Philippe Seta signe pourtant des notes internes qui font la promotion du Mediator, un antidiabétique indispensable. Des notes qui incitent à accélérer le développement de ce médicament envers et contre tout. Un peu embarrassé, Jean-Philippe Seta par le d'excès de langage, de formules de publicitaires inadaptées, mais pas de tromperies.
Marion Dubreuil au palais de justice de Paris. À la barre également aujourd'hui le cardinal Barbarin, procès en appel pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat dans son diocèse. « Je n'arrive pas à voir en quoi je suis coupable », a dit tout à l'heure l'archevêque de Lyon à l'audience. Faut-il réexaminer l'intervention française au Mali, débalancée depuis la mort des 13 militaires en début de semaine ? Aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir les modalités d'intervention. Toutes les options sont ouvertes, dit-il. Il réclame surtout que les alliés de la France contribuent aussi, eux aussi, à cette lutte contre le terrorisme. Et sur Europe 1, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui répond « Non, la France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN », dit-il. Entretien exclusif accordé à Sonia Mabrouk et qui sera diffusé dans son intégralité demain à 8h15 sur Europe 1.
Vous connaissez probablement ce sirop pour la toux, hein. Le Maxilaz, vous en avez même utilisé, moi c'est mon cas typiquement. Eh bien, il ne sera plus disponible en libre accès ?
Non, décision de l'agence du médicament, la NSM a décidé désormais d'imposer qu'il se trouve derrière le comptoir. Il faudra donc le demander aux pharmaciens parce que ce n'est pas si anodin, il y a eu des cas d'allergie grave. Écoutez le docteur Jean-Michel Rasse.
Il y a un certain nombre d'effets indésirables graves de type allergique qui ont quand même été déclarés pour les comprimés, pour les grands ados ou bien les adultes. L'existence de ce risque, même rare, nous a semblé justifier le fait qu'il faille le demander explicitement au pharmacien pour se le voir délivrer. Devant un patient qui est connu pour être un petit peu polyallergique, être asthmatique, avoir déjà fait des allergies soit alimentaires, soit médicamenteuses, eh bien, de façon à ce qu'ils puissent dire, je pense qu'il vaut mieux éviter ce médicament chez vous et utiliser peut-être d'autres petits moyens, et pas médicamenteux, mais de beaucoup boire, de prendre des pastilles sucrées, un peu de miel, ça c'était nos grands-mères qui nous conseillaient ça. Et bon, ça marche.
Le responsable des médicaments, le docteur Jean-Michel Rasse au micro d'Ève Roger.
Un risque d'urticaire, hein, donc attention. Le foot, nous allons à Saint-Étienne.
Oui, Saint-Étienne qui reçoit ce soir en Ligue Europa les Belges de La Gontoise, Anthony Perel.
Oui, c'est parti depuis une dizaine de minutes, toujours 0-0. Les Verts jouent tout simplement leur survie en Ligue Europa. C'est une demi-finale pour la qualification, a lâché l'entraîneur Claude Puel. Car malgré un bilan peu reluisant, 3 nuls et une défaite jusqu'à présent, la SS n'est pas encore éliminée de cette petite Coupe d'Europe. Deux succès sur les deux derniers matchs seront synonyme de qualification pour les Verts.
Voilà, 0-0 Saint-Etienne, La Gontoise. On suit ce match tout au long de la soirée sur Europe 1 avec vous, Anthony Perel. Merci.
Merci Sébastien. 19h30, vous reviendrez pour de nouvelles infos. Anissa, un léger mieux pour demain du côté du ciel.
Oui, effectivement, pour le nord, la Normandie, la région parisienne, la Champagne, la Ardenne. Attention, je vous annonce des bonnes nouvelles. Après les nuages gris du matin, c'est le soleil qui fera de belles apparitions. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, hein, le soleil. Sur la côte atlantique, les pays de la Loire et jusque sur le Pays basque, là aussi, vous avez de la chance. Le temps sera sec demain et très lumineux dans l'après-midi, comme sur le bord de la Méditerranée. En fait, alors attention, là je m'adresse à ceux qui vont vivre une journée plutôt mitigée demain. Il se trouve de l'Alsace aux Alpes. Je suis désolée, hein, les pluies seront assez soutenues demain. Sur le Cotentin, le Nivernais, le Massif central et le Limousin, quelques averses sont possibles même dans l'après-midi.
Et le week-end, il s'annonce comment?
Alors, le week-end, je ne veux pas vous gâcher votre jeudi, non. Non, samedi, ouais. Samedi à l'est, c'est très ensoleillé. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Et dimanche, eh ben, ça sera une journée où vous allez écouter Europe 1 sous la couette sur le canapé.
Bah voilà, tout est dit.
On aura l'occasion d'en reparler. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Place à l'interview politique dans quelques secondes. Aurélie Herbemont est dans ce studio avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité ce soir, Aurélie.
Boris Vallaud, député des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Alors on va parler de la réforme des retraites à une semaine tout pile de la mobilisation du 5 décembre.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans votre grand journal du soir, dans un instant sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique.
Aurélie Herbemont, dans ce studio ce soir, votre invité, le député des Landes et porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallaud. Bonsoir à vous.
Bonsoir Boris Vallaud.
Bonsoir à vous.
Le 5 décembre, vous serez dans la rue contre la réforme des retraites ou contre la politique d'Emmanuel Macron en général?
Je veux dire, l'un et l'autre ne sont pas séparables. On a un certain nombre de récriminations formulées à l'endroit de la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron. En particulier en matière de politique sociale, qui est une politique qui se préoccupe mal du sort des plus modestes, qui semble être encore et toujours, en dépit de l'acte 2 qui devait annoncer des changements, celle des premiers de cordée. Et donc c'est ce que l'on va dire, ce que l'on va signifier à l'occasion de cette réforme des retraites, dont on ne voit pas ce qu'elle peut en vérité donner, parce que plus le temps passe et plus le nuage s'épaissit.
Ça s'épaissit, vous n'avez pas été convaincu hier par le Premier ministre qui quand même dit « bon, ce ne sera pas la clause du grand-père, on reporte la réforme pour tous ceux qui entreront seulement sur le marché du travail, mais ce ne sera pas pour la génération née en 63 ». Déjà, on avance un peu, il dit que ça sera sans brutalité.
Mais vous savez, j'ai entendu le président de la République dire « âge pivot » et puis être quelques jours plus tard contredit par sa ministre Agnès Buzyn. J'ai entendu le Premier ministre évoquer la clause du grand-père et puis être démenti par le haut-commissaire M. Delvoye. J'ai entendu M. Delvoye parler de minimum retraite et puis j'entends la ministre du Travail parler de minimum vieillesse. J'entends le gouvernement dire que ça va être un grand progrès pour les mères de famille. Et puis je lis l'étude de l'IPS dans les colonnes d'un de vos confrères disant que ce sera l'inverse. En réalité, on ne sait plus qui croire et quoi croire. Donc moi, je crois que le moment où la brume sera levée, c'est quand on aura la réalité de ce que veut faire le gouvernement sur la table. Je crains que nous ne soyons pas les seuls à ne pas savoir ce que veut faire le gouvernement, mais que le gouvernement lui-même ne le sache pas très bien.
En attendant, il faut se mobiliser, selon vous. Pour le Parti Socialiste, le régime de retraite, il ne faut pas y toucher?
D'abord, je crois que sur le sujet des retraites, comme sur beaucoup d'autres sujets, il y a besoin d'honnêteté, de clarté, de vérité. C'est la condition de la confiance. Et s'agissant des retraites, quand le gouvernement dit « nous sommes au bord du précipice, nous sommes dans une opération de sauvetage », il faut dire que c'est faux.
Le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il y aura entre 7 et 17 milliards, je crois, de manque pour le régime des retraites d'ici 2025.
Alors, précisément, je l'ai lu en détail. Et vous savez que le Conseil d'orientation des retraites ne fait pas de prévision. Il construit des scénarios sur la base d'hypothèses qui lui sont, en l'occurrence, données par le gouvernement. De quoi est constitué ce déficit ? De la non-compensation des baisses d'exonération de cotisations sociales décidées par le gouvernement, de l'argent qui va manquer aux retraites. De la réforme de l'assurance chômage décidée par le gouvernement qui va faire qu'il y aura moins de versements de l'UNEDIC à l'assurance vieillesse et moins de versements de la CNAF, de la Caisse nationale d'assurance familiale. Ça tient aussi du maintien, du gel, du point d'indice pour les fonctionnaires qui rétractent la masse salariale et donc le niveau des contributions de la fonction publique. Ça tient aussi à la réduction du nombre des fonctionnaires. Alors, le gouvernement ne peut pas créer un déficit et puis lever les bras en hurlant en disant il y a un trou. Et puis, il faut considérer les choses sur la longue durée. Ce que dit le corps, c'est qu'il n'y a pas de dérapage des retraites. Pas de dérapage des retraites. Ce n'est pas un problème de dépenses qui est stable. C'est un peu moins de 14% de la part de la richesse nationale, du PIB, qui est maintenu dans la durée, mais bien au-delà de 2025. On a un fonds de réserve des retraites qui a été constitué dès 2002 par Lionel Jospin. Il y a des réserves, des régimes complémentaires. En tout, ça fait 150 millions d'euros. Vous avez le trou de la Sécu, le fameux trou de la Sécu, qui va finir d'être remboursé fin 2024. Ça va donner des marges de manœuvre pour la dépendance, pour l'hôpital, par exemple, nous l'avons proposé, et puis pour les retraites. Est-ce à dire que le système est parfaitement juste?
Voilà, vous considérez qu'il faut conserver les régimes spéciaux?
Eh bien, les régimes spéciaux, c'est un hochet que le gouvernement agite pour ne pas se préoccuper de vrais sujets et que je veux évoquer. Premier sujet, celui de la pénibilité.
Le Premier ministre en a parlé
hier. Oui, mais c'est le même Premier ministre qui a enterré le compte personnel de prévention de la pénibilité il y a 2 ans. Donc, qu'il ne se fasse pas l'apôtre de la prise en compte de la pénibilité alors qu'il a enterré ce sujet il y a déjà 2 ans. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'il y a 6 ans de différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Il y a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 5% de Français les plus pauvres et les 5% de Français les plus riches. Que vous avez des ouvriers du bâtiment, des charpentiers qui ont le dos cassé à 55 ans, que vous avez des troubles musculo-squelettiques chez nous, personnels soignants, dans les EHPAD, qu'on n'est pas égaux face à la retraite et que ça, il faut le prendre en compte urgemment. Et alors, ça, c'est un sujet majeur. Je ne sais pas ce que va faire le gouvernement. Il y a la question de l'égalité femmes-hommes. Vous avez 800 euros en moyenne de différence de pension entre un homme et une femme. Parce que vous savez ce que sont les inégalités.
Ils disent qu'ils vont réparer cette inégalité.
Mais moi, vous savez,
voilà, au niveau de la retraite.
Il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir pour croire. Bah, moi, c'est un peu l'inverse. Vous voyez, et pour l'instant, ce que j'ai vu du gouvernement, c'est qu'il nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, attention les yeux, la réforme de l'assurance chômage, ce sera la partie sécurité de ma réforme du marché du travail. Et en réalité, vous avez 40% des chômeurs indemnisés qui sont perdants, en particulier des femmes à temps partiel, en particulier les jeunes. Donc, il y a une confiance qui est rompue, il faut le dire, et un pays qui est à cran, parce qu'il a le sentiment qu'on avait un président de la République et une majorité qui avait été élu sur la promesse d'écouter tout le monde et qui n'écoute personne. Et donc, un président qui décide tout seul et qui va finir par se retrouver tout seul. On a besoin de vitalité démocratique et de confiance. Eh bien, je pense que l'on manque de l'un et de l'autre.
Il y a un autre sujet qui mobilise le Parti Socialiste, c'est la privatisation d'Aéroports de Paris. Samedi, il y a un rassemblement à Paris justement contre cette privatisation. Le référendum d'initiative partagée que vous, les socialistes, vous avez enclenché avec les insoumis, les communistes et des élus Les Républicains. On est au dernier pointage à 969 000 signatures. C'est fichu, vous ne pourrez jamais déclencher ce référendum. Il en faut 4 700 000.
Mais 4 700 000 d'ici mars. Vous voyez, la campagne de signature reste ouverte et moi j'invite tout le monde à venir apporter ce soutien à cette expression démocratique.
Vous n'avez pas encore dépassé le million, dit que d'ici mars,
attendez,
c'est quand
savez,
même
million,
très très loin
million,
d'être acquis.
Un million de gens qui prennent le temps de donner leur lieu de vote, donner le numéro de leur carte d'identité, de soutenir cette initiative démocratique, eh bien c'est très significatif. Et je voudrais rappeler que, en conclusion, du grand débat. Le président de la République avait dit qu'il faut baisser ce seuil à 1 million. Et ben, quand on sera à 1 million, on va dire au président de la République, et ben chiche, tenez votre engagement, pour une fois celui-là on le soutiendra.
Sauf que la Constitution est toujours à 4 700 000 signatures.
L'article 11 de la Constitution permet au président de déclencher le référendum.
Eh bien vous lui direz si quand vous arrivez au million, si vous arrivez au million. Une dernière question, Boris Vallot. Hier, Pierre Moscovici était à votre place, à ce micro, et il a eu des mots assez durs avec le PS. Un PS qui s'exprime peu, ne convainc pas, les socialistes ont beaucoup de travail à faire pour réinventer leur logiciel intellectuel. Il y a quelques semaines, c'était François Rebsamen, Michel Sapin, qui tenaient à peu près les mêmes propos. Qu'est-ce que vous répondez à cette génération qui n'est franchement pas tendre avec la vôtre ?
Oh, ben d'abord que nous portons leur sac à dos à bien des égards. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les commentaires des autres. Que reproche-t-il au Parti Socialiste ? D'avoir travaillé sur la taxation des multinationales pour instaurer de la justice. Il reproche de travailler sur la démographie médicale parce que l'accès aux soins est une priorité des Français.
C'est,
il nous reproche
c'est de leur faute si le PS est à 6%
fait
aujourd'hui.
Un plan d'urgence pour l'hôpital qui a été proposé, de faire des propositions dans le cadre des travaux parlementaires. Vous savez, je ne commande pas et je laisse chacun à ses appréciations qui, moi, ne m'émeuvent pas et surtout ne me découragent pas.
Eh bien, merci Boris Vallot d'avoir été mon invité.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Restez avec nous, 19h30, le Black Friday. On en parle beaucoup. Et vous en pensez quoi ? Ce rendez-vous à ne pas manquer ou une folie consumériste à éviter ? Un petit débat, 39-21. Rejoignez-nous. 19h45, ne mentez pas. Leïla Slimani, écrivaine, prix Goncourt 2016. On parlera de l'adaptation de son livre Chanson douce au cinéma avec Karine Viard depuis hier. Et puis son association Lire pour en sortir, qui donne accès à la lecture aux personnes détenues.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous Nathalie Lévy et on regarde vers demain.
C'est ça, un temps d'avance chaque soir sur Europe 1. On est d'abord demain en France avec vous, Laure d'Autriche. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors aujourd'hui, les pays de l'Agence spatiale européenne ont voté en Espagne un budget record, 14 milliards d'euros pour financer les nouveaux programmes spatiaux. La France veut en être, hein, Laure. Elle a créé une nouvelle structure, ça s'appelle ArianeWorks pour développer la fusée de demain. Et ne pas se laisser dépasser par la Chine ou les États-Unis, par exemple. Ces fusées, elles décolleront dans 10 ou 15 ans. Mm. Et vous, Laure, vous avez pu entrer dans cette start-up parisienne ArianeWorks. Elle compte 12 personnes.
Oui, c'est ça. Ils ont été sélectionnés pour leur esprit différent, pour leur capacité à trouver des solutions rapidement, pour leur profil étonnant. L'un des ingénieurs a travaillé dans la Formule 1, par exemple. Un autre dans l'aéronautique auparavant. Ces esprits brillants ont une règle à respecter, prendre des risques pour inventer justement la fusée de demain à moindre coût. Et les solutions se trouvent parfois dans la vie quotidienne, comme pour construire des réservoirs de fusées moins chers. Détaille Olivier Gogdet, ingénieur en chef chez ArianeWorks.
Mes parents sont viticulteurs, je viens du domaine vinicole. On sait qu'il y a une certaine ressemblance entre un réservoir de lanceurs et des citernes à vent, notamment un vin pétillant, vin mousseux, qui doivent prendre en compte des pressions. On peut mettre de l'oxygène liquide dans des réservoirs en inox. Dans le domaine des réservoirs industriels, il y a des produits qui ne sont pas si différents de ceux qu'on peut utiliser et qui sont a priori plus bas coût.
Et ça foisonne d'idées hein, dans cette start-up.
Ah oui, les murs blancs de la grande salle de réunion sont remplis de croquis, de chiffres, de flèches, de tableaux. Alors ce sont le Centre National d'Études Spatiales et Ariane Group qui ont lancé cette start-up. Mmh. Et voilà les sujets sur lesquels, par exemple, ces ingénieurs réfléchissent pour diminuer les coûts, construire une fusée qui puisse se poser sans pied d'atterrissage ou encore diminuer le nombre de câbles à l'intérieur de la fusée. Et tant pis si l'idée n'aboutit pas toujours, explique Hélène Eda, ingénieure depuis 15 ans. Dans le spatial.
On a toujours quelque chose à apprendre, y compris si le produit en lui-même échoue. Les différents éléments qui pourront être repris sur les projets futurs nous permettent effectivement d'assurer notre survie à terme et notre maintien sur les marchés, qui sont de plus en plus concurrentiels et donc très entre guillemets menaçants pour nous. Donc il y a un besoin de changer sur nos modes de fonctionnement qui est indispensable.
Et pour construire leur prototype, eh bien, ces ingénieurs font appel à des entreprises qui doivent respecter une clause de confidentialité. C'est une partie de l'avenir du spatial français hui, qui se joue ici. Des idées, des projets qui émergent à l'intérieur de ces murs seront bientôt brevetés.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Cette véritable boîte à idées donc pour le spatial de demain. Merci à vous. On file demain dans le monde avec vous, Didier François. Bonsoir. Vous nous emmenez au Proche-Orient parce que sur place, les manifestations se sont multipliées au cours de ces dernières semaines contre la mainmise des partis religieux sur la vie politique.
Eh bien, effectivement, on a un véritable rejet du communautarisme religieux par la jeunesse dans trois pays, et pas des moindres, le Liban, l'Irak et même l'Iran. C'est un phénomène tout à fait nouveau dans le monde musulman, en tout cas dans l'arc chiite, qui était depuis les années 80 dominé politiquement par les mouvements islamistes issus de la révolution de l'Imam Khomeini. En Iran, donc, c'est l'augmentation du prix de l'essence qui a mis le feu aux poudres, avec des émeutes qui ont touché plus de 40 villes et une répression terrible menée par les milices du régime, les Basidji et les Pasdaran, gardiens de la Révolution. Elle aurait fait 143 morts en quelques jours, suivie par une vague d'arrestations qui, selon Amnesty International et Human Rights Watch, concernerait plus de 7000 personnes.
Et on est peut-être encore loin du compte. Et en Irak, Didier, les manifestations, elles sont également quotidiennes dans le centre de Bagdad et les principales villes chiites du pays. Hein.
Absolument, cela depuis le 1er octobre. Et la contestation ne faiblit pas, malgré l'intervention très brutale des milices pro-iraniennes qui ont tiré à plusieurs reprises sur la foule, faisant 360 morts et 15 000 blessés, selon les chiffres des services médicaux. Les manifestants, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés. Ils se sont attaqués hier au consulat iranien de la ville sainte de Najaf, qui est pourtant traditionnellement un bastion des mouvements religieux chiites au pouvoir depuis l'intervention américaine de 2003.
Dernier élément, le Liban, qui est également touché par ce mouvement. Hein.
Effectivement, là encore, les rassemblements se succèdent depuis maintenant 40 jours avec les mêmes mots d'ordre contre la gabegie et la corruption du système confessionnel. Et même scénario, depuis dimanche, ce sont les miliciens des mouvements pro-iraniens, Hezbollah et Hamal, qui s'attaquent aux manifestants dans la capitale Beyrouth, mais également dans les bastions de Tyr et de Baalbek au sud du pays. Ce qui prouve bien que la base sociale de ces partis religieux chiites participe désormais pleinement à la contestation. Et c'est un désaveu terrible de la politique iranienne à l'échelle de la région.
Merci beaucoup Didier François. Ces régions donc extrêmement malmenées, ces pays où on est à feu et à sang en ce moment. Merci pour cet éclairage.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres de Sébastien Krebs, il arrive dans quelques secondes. Et puis le Black Friday, bah vous, tiens, vous allez y aller demain ?
Vous pouvez nous le dire dès maintenant au 39-21. On attend vos appels et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, de nouvelles infos.
Le SAMU a nouveau mis en cause. Une femme est morte au mois de septembre d'un infarctus après avoir attendu une heure les secours. Ses proches ont appelé 5 fois le 15. Sa fille a porté plainte. À retenir également ce soir les mots du cardinal Barbarin. Je n'arrive pas à voir en quoi je suis coupable, a dit l'archevêque de Lyon à l'ouverture de son procès en appel pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Des blocages en vue dans plusieurs dépôts pétroliers en Bretagne. Action des entrepreneurs du BTP contre la hausse d'une taxe qui frappe le gazole. Un geste annoncé pour les étudiants, les loyers des résidences universitaires seront gelés l'année prochaine, en 2020. Et puis le foot, la Ligue Europa. Saint-Etienne reçoit les Belges de la Gantoise à Geoffroy Guichard, 0-0. On joue depuis 37 minutes.
Merci Sébastien, vous revenez demain, 18h.
À demain.
Assurément. Merci à vous. Un peu plus de soleil demain, nous dit Anissa.
Oui, effectivement, c'est le point positif de cette météo pour demain. Sur le nord, la Normandie, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, vous allez débuter la journée avec des nuages, mais rassurez-vous, dans l'après-midi, le soleil fera de belles apparitions. Sur la côte atlantique, les Pays de la Loire et jusque sur le Pays Basque, là c'est un temps sec demain et très lumineux dans l'après-midi. Au bord de la Méditerranée, pareil, beaucoup de soleil demain après-midi. En fait, c'est de l'Alsace aux Alpes où les pluies seront assez soutenues. Sur le Cotentin, le Nivernais, le Massif central, le Limousin, là, quelques averses sont possibles quand même dans l'après-midi. Les températures, elles commencent à baisser tout doucement. 4 degrés demain matin pour Manosque, 7 à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Rennes, Belfort et Paris, 10 à Marseille. Dans l'après-midi, nous aurons 8 à 20 degrés. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec vos invités. Et on s'intéresse à ce qui fait la une de l'actualité. Beaucoup dans les pubs d'ailleurs, le Black Friday,
le
c'est
Black
demain.
Friday, on n'entend que ça, c'est l'événement commercial incontournable du moment. On va zoomer donc, assurément, nous aussi, dessus. Bonsoir à vous, nos invités dans ce studio. Pascal Hébel, bienvenue. Vous êtes économiste, directrice du pôle consommation au Crédoc, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Kevin Goujon est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes cofondateur de Ngo Shoes qui a mis en place Make Friday Green Again. Bienvenue à tous les deux. D'abord, Pascal Hébel, le Black Friday, on a entendu des consommateurs tout à l'heure qui étaient là dans le 15e arrondissement de Paris, centre commercial. C'est un moment très attendu par les Français pour réaliser leurs achats.
Oui, c'est comme ce qui s'est passé sur les soldes il y a une vingtaine d'années. C'est un événement qui, en effet, prend de l'ampleur depuis 2014. Et aujourd'hui, on a deux tiers des Français qui comptent en profiter. Et évidemment, ça tombe bien puisqu'il y a les achats de Noël à faire.
Ah oui.
Donc on est avec un déplacement quand même vers le mois de novembre pour faire ses achats plus tôt. Mais évidemment, comme les soldes, ça peut créer un peu plus de consommation.
Bah oui, forcément. Mais alors, est-ce qu'il faut y croire à ce Black Friday ? Est-ce que, dites-nous la vérité, vous qui savez, est-ce qu'on augmente les prix pour pouvoir faire des jolies affiches qui sont comme ça, des phares, pour dire qu'en fait, il y a des vraies grosses remises ? Ou est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu les...
Alors, c'est interdit hein, de changer les affiches juste avant, puisque ces Black Friday entrent dans la réglementation des promotions. Et donc, s'il y a un contrôle de la DGCCRF, on se fait aligner, comme a pu un site, par exemple, de vente privée.
Mais donc, c'est des vrais promos, quand on... oui ou non ?
Ah oui, forcément, c'est des vrais promos. Mais en fait, ce qui a été calculé, c'est qu'en effet, vous vous faites embarquer ce jour-là et vous allez acheter des produits où il n'y a pas de promo. Et donc, vous allez, globalement, il y a un chiffre qui est sorti, c'est qu'on ne fait une baisse de prix que de 2%.
Que de 2%?
Puisqu'on achète autre chose, hein. C'est comme pendant les soldes, hein. On peut acheter autre chose.
On est tenté par le reste. Alors du coup, Kevin Goujon, vous êtes cofondateur, je le disais, de Ngo Shoes, qui a mis en place Make Friday Green Again. Vous boycottez le Black Friday demain?
Alors oui, on boycotte, donc on ne fait pas de promo sur le site internet et on reverse 10% de notre chiffre d'affaires à une association qui s'appelle Éthique sur l'étiquette, qui du coup voilà, fait attention aux productions de toutes ces marques dans le monde.
Mais pourquoi en fait ? Parce que le Black Friday, c'est quand même compatible avec l'écologie. On peut très bien consommer français, on peut consommer près de chez soi, on peut aller chez les petits commerçants finalement. Ça arrange tout le monde, non ?
Alors généralement, justement, le Black Friday, c'est plutôt des marques qui vont avoir une démarche environnementale. C'est pas seulement, mais en fait, toutes les marques qui sont derrière le Make Friday Green Again, ces 600 marques, ce sont des marques responsables qui appellent à consommer moins, mais mieux. Et généralement, tous ceux qui font le Black Friday, on est plutôt sur un impact et environnemental et sociétal, avec des coûts de production humaine et évidemment aussi écologique.
Parce que, Pascal Hébel, les petits commerçants, les commerces de proximité, ils jouent moins le jeu du Black Friday ?
Ah, c'est plus compliqué quand on est tout petit, parce qu'en effet, il faut pouvoir faire de la promo, et enfin, notamment faire des affiches, et donc on n'est pas forcément aussi bien équipé que des gros, et surtout sur Internet, où c'est beaucoup plus facile de changer l'affichage des prix. Et donc ce qu'on constate, c'est que c'est en effet plutôt sur Internet, d'ailleurs on prévoit plutôt une croissance des achats sur Internet, ça a commencé en 2013 avec évidemment le plus gros qui est Amazon, et tout le monde a été obligé de suivre, c'est-à-dire quand un de vos concurrents le fait, donc on suit. Mais c'est
pour
vrai que cette année, on
pas
voit...
rester sur le banc de touche, voilà, parce qu'il faut aussi vendre.
Eh ben, c'est-à-dire que c'est ça, c'est que si vous ne suivez pas, forcément, au lieu d'acheter sur un site français, vous allez perdre en fait, hein, de la vente qui se fait sur un site américain qui arrive avec cette offre.
On se retrouve dans un instant, les auditeurs aussi veulent vous poser des questions.
Et vous pouvez bien sûr intervenir au 3921 et réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, on s'intéresse à ce qui fait la une de l'actualité, en tout cas pour demain. C'est le Black Friday, un vendredi noir pour la planète et les consommateurs. En tout cas, c'est la question que vous posez à vos invités, Pascal Hébel, économiste, et Kevin Goujon, cofondateur de Ngo Shoes.
Oui, qui a mis en place Make Friday Green Again. Et on a Paul qui nous appelle de Vendée ce soir. Bonsoir Paul.
Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir à vos invités.
Bienvenue à vous, vous allez consommer vous demain ?
Oui, j'ai anticipé, j'ai consommé, et ce que je voulais dire, c'est qu'on fait un procès d'intention au Black Friday. Moi, je suis quelqu'un qui achète plutôt circuit court, qui achète plutôt bio, qui achète plutôt français, et c'est pas forcément incompatible avec le Black Friday. J'en veux pour exemple, j'avais perdu mon Opinel sans lequel je ne conçois pas de vivre, et je suis allé sur le site américain dont je tairai le nom, mais qui fait référence aux cavalières, et j'ai acheté non pas un, mais des Opinel. Donc au final, j'ai fait vivre une entreprise française qui a, je crois, 150 ou 200 ans d'existence, qui est éco-responsable. Et voilà, j'ai profité du Black Friday.
Bah oui, mais c'est un discours qu'on entend souvent, Paul. Merci de nous avoir contacté ce soir depuis la Vendée. C'est vrai, il n'a pas tort, Paul, dans ce qu'il dit. On peut consommer français, local. Les consommateurs qui étaient là, un petit peu plus loin dans le 15e arrondissement tout à l'heure et qu'on avait, nous disaient, bah oui, j'ai anticipé les achats, je fais attention d'habitude, mais là, c'est le Black Friday. Bah oui, il y a Noël après, quoi.
Oui, non, il y a besoin de faire des achats. Donc, il y a vraiment cette question-là de j'achète par nécessité ou j'achète par plaisir et je me laisse tenter. Et c'est vrai qu'on fait des cadeaux pour Noël. Donc, si j'anticipe et que je peux gagner de l'argent, et puis il y a des choses qui sont vendues, hein, je pense des prix de train qui sont moins chers. On peut acheter des choses qui ont même un impact positif pour la planète. Ce n'est pas complètement incompatible.
Ouais, bon, alors là, les prix de train, ça ne va pas trop servir aux alentours du 5 décembre. Mais Kevin Goujon, non, ce que je me disais, c'est évidemment le but de votre action, Ngo Shoes, qui a mis en place donc Make Friday green again, c'est évidemment de consommer et de reverser cet argent à des marques vertes, hein, c'est ça ? À des marques éco-responsables. Donc c'est très bien. C'est très bien, mais comment vous pouvez, j'allais dire, exister quand on voit la force d'un Black Friday ?
Alors, le but du sujet n'est pas du tout d'être moralisateur. Hein. C'est vraiment de sensibiliser les gens au coût
du Black Friday. Même sensibiliser, j'allais dire.
Avec les 600 marques qu'on est, on a réussi, à travers une centaine de médias, de pouvoir parler du Green Friday et venir un peu poser la question du comment est-ce qu'on peut avoir moins 70% et quel est le coût derrière.
J'entends bien ce que vous dites. Donc, sensibiliser, admettons. Mais comment on peut vous suivre ? Parce qu'on a la liste des cadeaux qui s'allonge au fil des jours et parce qu'on a sa bourse qui, elle, ne s'allonge pas au fil des jours.
Et c'est sûr, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le culpabilisateur. On a tous des pouvoirs d'achat différents, on fait avec, mais ce qu'on reproche au Black Friday, c'est la surproduction. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller acheter quelque chose dont il a vraiment besoin et qui profite des promotions, évidemment, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que souvent, c'est dicté par la promotion, on va aller acheter quelque chose dont on n'a absolument pas besoin. Et donc, c'est cette surconsommation qui amène une surproduction. Et c'est ça qu'on
vient... Et c'est ça que vous dénoncez, entre guillemets, exactement. En tout cas, que vous pointez. Et c'est ce que vous nous disiez, Pascal Hébel. Je voudrais que vous rappeliez ce chiffre à nos auditeurs qui nous ont peut-être rejoints à l'instant. Finalement, alors, si on dit qu'a priori, on fait une économie de 7,5% en moyenne, en fait, c'est faux. Parce qu'on achète à côté un produit qu'on n'avait pas du tout prévu d'acheter. Là, le manteau qui va bien, alors qu'on ne venait pas pour ça au départ. Et au final, donc... C'est 2% de...
Ce jour-là, c'est 2% de prix, de baisse de prix. Bon, ce n'est pas complètement négligeable non plus. Hein,
C'est assez ridicule, a priori, quand on voit ce que le Black Friday, normalement, nous promet. Et nous promet, surtout aux États-Unis, parce que normalement, on a exporté le modèle. Donc, normalement, on fait de vraies bonnes affaires.
Oui, alors c'est né aux États-Unis parce qu'en effet, ça correspond d'ailleurs, hein, le black, c'est le moment de l'année où les comptes passent du rouge au noir, donc on devient positif. Ouais. Et en effet, dans le modèle américain, mais aux États-Unis, on voit les mêmes mouvements qu'en France, hein, une critique du modèle de consommation. Donc on va avoir ces gens qui vont faire la queue et qui vont attendre pour faire des affaires. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on vivait en France il y a 30 ans, le jour des soldes, hein, le mercredi des soldes.
Ah bah oui,
aussi
il y a la
queue
file d'attente devant les magasins.
Voilà, tout à fait.
Bien sûr. Vous pensez que, évidemment, il y a des députés là, qui se sont penchés sur le sujet et qui souhaitent l'interdire. Vous pensez qu'on peut interdire, Pascal Hébel, le Black Friday ?
Alors, c'est vrai qu'il y a dans la loi sur les promotions cette question de ne pas refaire des soldes à côté, donc de ne pas se mettre à plusieurs acteurs. Donc, est-ce qu'ils vont réussir en fait, à le faire passer ? Ce n'est pas certain. Hein. C'est réglementaire, c'est juridique. C'est pas sûr que la loi permette d'interdire des promotions, même si y a plusieurs acteurs qui le font en même temps. C'est plutôt aussi une communication de certains ministres qui voudraient en effet lutter contre la surconsommation.
Et Elisabeth Borne qui a mis en garde ce matin sur Europe 1 contre la frénésie de cette consommation. C'était dans la matinale de Mathieu Béliard. Merci à tous les deux, Pascal Hébel et Kevin Goujon. Je rappelle, Engo Shoes,
marque de basket,
c'est une vraie marque, solidaire. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, avec ce Make Friday Green Again. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans le studio d'Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avant 20h.
Une grande dame, un écrivain, une écrivaine, Leïla Slimani, on peut le dire. Elle a été prix Goncourt 2016 pour Chanson d'eau, ce film-là sur les écrans depuis hier. Et elle vient nous parler aussi d'une association qui lui tient à cœur, l'accès à la lecture pour les personnes en établissement pénitentiaire.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Lumière ce soir sur l'écrivaine Leïla Slimani et son association Lire pour en sortir, pour l'accès à la lecture en milieu carcéral.
La culture pour tous sur Europe 1 avec une immersion ce soir à la prison de la santé à Paris. Bonsoir Théophile Cossa.
Bonsoir Nathalie.
Eh oui, on s'y croirait, vous êtes allé à la rencontre de l'association Lire pour en sortir qui permet aux détenus un accès à la lecture. C'est un outil de réinsertion reconnu depuis 2014 par le Code de procédure pénale, au même titre d'ailleurs que le suivi d'une formation. Et pour donner envie aux détenus, l'association organise des rencontres avec les auteurs comme Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, bien sûr, qui en est la marraine. Nous serons avec elle dans un tout petit instant. D'abord, racontez-nous.
Eh bien, passé les très nombreuses portes de prison et les sas de sécurité, direction la bibliothèque de la prison, justement créée par l'association. Au programme, une réunion préparatoire avec 12 détenus pour parler du livre « La confiance en soi » de Charles Pépin, qui doit venir les rencontrer dans quelques jours. Milan, la bénévole, anime l'échange. Échange, il faut dire au début, plutôt timide.
Jamais facile quand on commence que chacun se sente à l'aise
de participer. Déjà, est-ce que le livre, est-ce qu'il vous a intéressé?
Ouais, ça fait réfléchir, ça se voit, c'est un très très bon livre. Ça donne des idées.
Et vous avez appris des choses à la lecture du livre?
Moi, je pense que ça dépend de la manière dont on lit le livre, si on est à la recherche de quelque chose ou pas.
Alors, vous l'entendez, hein, Milan les relance. Et puis, au fil de la conversation, la confiance s'établit, les langues se délient et les détenus se confient. Ils évoquent leurs ressentis, leurs histoires, leurs difficultés aussi. Le livre devient prétexte à parler de leur confiance en eux et de leur vie en détention.
Moi, par exemple, je pense que la confiance en moi-même, ça ne se muscle pas. Je crois que c'est on l'a ou on ne l'a pas, en fait.
Si on n'a pas cette confiance originelle, ça vous paraît difficile, en fait, de...
Très difficile. Donc... Elle est vraiment limitée.
Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, parce que je le ressens aussi. C'est que nous tous ici, chacun de nous, on a une histoire. Il y a des moments en prison où on est bien, on est mal. On est bien, on est mal. Ça, c'est comme ça. Mais on continue à vivre.
Alors, le café lecture, en fait, se transforme, Théo, donc presque en thérapie de groupe.
Oui, un moment apprécié par les participants qui ne sont d'ailleurs pas forcément des lecteurs aguerris.
Quand j'étais dehors, la lecture, je pensais, pour moi, c'était pas intéressant. Mais depuis que je suis en prison, je trouve ça cool, quoi. Ça m'apporte du courage, ça m'apporte d'apprendre des choses. Ouais, on s'évade un petit peu, ça fait du bien.
Vous aimez bien les temps en groupe où on échange du livre?
Ouais, franchement, ouais, pour voir la vie des gens, si les idées se ressemblent ou pas. Mmh. C'est enrichissant de parler avec un auteur, surtout que c'est d'échanger avec des gens qui ne sont pas de notre environnement. Ça change, ça nous ouvre l'esprit en fait.
Vous l'entendez, du courage, de l'apprentissage et une ouverture d'esprit, autant de premiers pas vers la réinsertion.
Merci beaucoup Théophile Cossa pour ce reportage à la prison de la santé à Paris. Merci d'être avec nous, Leïla Slimani. Merci, vous êtes écrivaine bien sûr, le prix Goncourt 2016, le film qui en est adapté est à l'écran depuis mercredi, une chanson douce. Mais vous êtes aussi la marraine de cette association Lire pour en sortir. Vous venez d'entendre le reportage signé Théophile Cossa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, surtout, dites-nous comment ça fonctionne précisément depuis 2015.
Bah écoutez, d'abord, je suis très touchée par ce reportage. Et puis, il est tout à fait à l'image de ce que j'ai moi-même vécu, de mon expérience quand j'ai pu me rendre dans un centre pénitentiaire pour rencontrer des détenus. Effectivement, au départ, il y a une très grande timidité, une difficulté à s'exprimer. Il faut quand même savoir que la plupart des détenus en France, je crois à peu près 40%, n'ont pas de diplôme, ont fait très peu d'études, pour beaucoup sont illettrés. Donc la question de l'éducation, de la lecture, de l'accès au savoir est une question fondamentale pour eux et puis pour leur réinsertion. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, il y a ce relâchement, ce désir de partager, ce désir d'entrer en dialogue, d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a passé du temps tout seul à écrire une histoire et eux, leur envie de nous raconter aussi ce qu'ils ont ressenti dans leur propre solitude en la lisant.
Leïla Slimani, depuis 2015, cela donne plus de 3500 personnes détenues qui ont lu 10 000 livres, rédigé plus de 7 000 fiches de lecture. Quels effets vous avez pu observer sur la réinsertion ?
Bon, d'abord, je crois que le simple fait de se déplacer, d'aller dans une bibliothèque, de pouvoir prendre un livre, le choisir, prendre le temps ensuite de le lire, c'est extrêmement important pour les détenus parce que ça leur donne une espèce de cadre. Mais il faut savoir que dans l'association Lire pour en sortir, ce qui est très important, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par des bénévoles qui vont les aider dans leur lecture. Ils sont pas tout seuls, donc ils peuvent poser des questions à ces bénévoles, ils peuvent leur demander des conseils. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important. C'est
donc
qu'il y a une véritable évolution qui se fait.
Oui, et ça peut améliorer du coup, j'imagine aussi, leurs conditions de vie. Est-ce que ça peut aller jusqu'à, pour certains, compte tenu de leur motivation, de leurs efforts sérieux de réadaptation sociale, est-ce que cela peut aller jusqu'à parfois obtenir une réduction de peine? Est-ce que vous avez eu écho de cela?
Je ne sais pas si ça a eu lieu, mais je sais qu'en tout cas c'est possible. Je sais que c'est possible et qu'à partir d'un certain nombre de fiches de lecture qui sont rédigées par les détenus, il y a la possibilité, grâce à ce programme, effectivement, de réduction, de réaménagement de peine. Donc en plus, ça a des effets effectivement qui sont des effets concrets.
Et oui. Alors on salue bien entendu les bénévoles qu'on a entendus dans le reportage.
Qui sont des gens extraordinaires. Quand je suis allée en centre pénitentiaire, c'est absolument extraordinaire l'engagement de ces gens. J'ai parlé avec notamment l'un d'eux qui me racontait que dans la prison où nous étions, il y avait beaucoup d'étrangers, donc beaucoup qui ne pouvaient pas lire en français. Et ce sont des gens qui vont chercher des livres ou qui vont imprimer, photocopier des documents dans la langue natale du détenu pour lui donner quelque chose à lire, qui l'aide ensuite à trouver des dictionnaires, à mieux apprendre le français. Donc il y a un engagement absolument extraordinaire de la part de ces gens.
Cette association Lire pour en sortir, on voit effectivement le travail, le rôle que vous avez, mais pourquoi s'adresser plus particulièrement à cette population ? Vous êtes implanté dans une vingtaine d'établissements en métropole et en Outre-mer et pas par exemple les personnes isolées ou certains jeunes de quartier difficile.
Ah ben ça, vous savez, c'est les dernières questions. Hein. Pourquoi aider ceci et pourquoi ne pas aider cela? Voilà, je crois que la question des détenus, c'est une question fondamentale, et notamment de leur réinsertion. C'est une population qui est souvent un peu oubliée pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport à la prison, qui a un rapport de pure punition. Ces gens sont punis, doivent être mis à l'écart, et puis voilà. Mais ça, c'est, évidemment, ça n'est pas à ça seulement que sert la prison. La prison, elle doit aussi permettre aux gens de se réinsérer, de ne pas récidiver, de retrouver une vie normale une fois que leur peine est purgée. Je pense que c'est très important aussi de défendre ces valeurs-là. La prison, ça n'est pas la vengeance et ça n'est pas évidemment et ça ne doit pas être l'exclusion.
Leïla Slimani, un mot encore. Chanson douce, c'est le film évidemment qui est sorti mercredi, hier, tiré de votre roman Prix Goncourt 2016, adapté donc au cinéma avec Karine Viard, Leïla Bekti, Antoine Reinhardt. Vous, sur l'adaptation, vous avez travaillé comment en quelques secondes?
J'ai réagi aux différentes versions du scénario qu'ils m'ont donné, alors en répondant aux questions quand ils en avaient, en essayant d'aider quand ils avaient un problème ou qu'ils essayaient de résoudre voilà une question. Mais je me suis pas plus impliquée que ça parce que j'avais vraiment envie que ce film soit le film de Lucie et qu'elle se sente toute latitude pour faire ce qu'elle voulait de cette histoire. Donc j'ai essayé de ne pas trop mettre mon nez dedans.
Et maintenant que vous avez vu ce film sur grand écran en salle au même titre que les téléspectateurs, qu'est-ce que vous en dites ?
Oh, moi, j'en suis très contente. Je l'ai vu à plusieurs phases de montage. Ils ont été assez gentils pour me le montrer, voilà, différentes phases, me demander également mon avis. Donc, ça a été un travail très collectif, très agréable, qui s'est fait dans une très bonne entente, en plus personnelle. Donc, je suis très contente du résultat.
Merci beaucoup, Leïla Slimani, de nous avoir accompagnés ce soir sur Europe 1 pour parler de cette association dont vous êtes la marraine, Lire pour en sortir,
Merci
qui promeut
beaucoup.
La lecture dans le milieu carcéral. Merci à vous.
Europe 1.
Salut Émilie Mazoyer.
Salut.
Je sais que vous êtes là.
Mais oui.
Je ne me suis pas trompée.
Bien sûr. C'est un petit peu l'heure. Heureusement que je suis là.
Oh là là.
Ce soir, suis très très bien accompagnée. Un indice, planète Marseille.
Oh yes. C'est la mia.
Génial. Ils seront avec nous tout à l'heure.
En vrai?
Ouais, bah oui, en vrai.
La classe.
Non, des hologrammes. Avec l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Et non, les vrais IAM.
Shuriken et tout ça.
Shuriken,
oh là
Khéops,
là.
Akhenaton. Oh 3 IAM avec nous tout à l'heure pour parler du nouvel album qui s'appelle Yasuke, qui est sorti vendredi dernier et qui est évidemment
une petite bombe.
Ah bah bien sûr, bah, attendez, c'est un grand, grand rendez-vous ce soir.
On vous écoute. Évidemment,
merci.
On est branchés, on danse et tout. Et on est contents. Merci, Émilie.
Merci.
Merci à tous de nous avoir suivis. 18h-20h, c'est votre rendez-vous, le grand journal du soir, tous les soirs en direct. Salut Anissa.
Salut Nathalie, on se retrouve demain.
Ah bah c'est comme vous voulez.
Non, moi je serai la clé.
Ah, ces petites
chances. Je vous abandonne.
Bon, restez avec nous, merci de votre fidélité. En tout cas, restez sur Europe 1 pour écouter le monde changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.